Cube Radio. Cube.radio.
Du Trisac. L'original.
Radio.
Du Trisac. Votre plaisir coupable.
Cube Radio.
Jeudi 4 mars 2021. Sébastien était stressé. Je parlais à Benoît. On est deux, Benoît. On se parlait, là. Tu sais, on désinfecte le studio parce que Richard postillonne un peu. Il faut ramasser ça. Donc, il faut faire attention quand même. Bon, merci d'être là. Merci d'être avec nous. Tantôt à midi, on va parler avec Jean-Charles, le rôle des gars, des athlètes, des sportifs qui pourraient prendre la parole puis rentrer dans la tête aux hommes au Québec, puis aux jeunes, puis aux adolescents. T'es pas un homme si tu frappes une femme, si tu bats, si tu bardasses une femme. T'es pas un homme. T'es pas viril. T'as rien. Ça prouve rien, pas en tout. T'es juste un loser puis une merde. Sincèrement, ça se résume à ça. Puis je pense qu'il est temps que des hommes connus, admirés des jeunes et des plus vieux. Tu sais, je pense à Georges Saint-Pierre. S'il sortait dans une pub et qu'il disait, là, les gars, là, ramassez-vous. Si vous avez des problèmes, faites-vous soigner, faites-vous traiter. Il n'y a pas de honte à ça. Puis si vous avez des stress, gérez-les. Alors, tu sais, c'est l'invitation qu'on lance. Il y a eu des athlètes qui sont identifiés dans les médias parce qu'ils ont commis des gestes de violence conjugale, mais il y en a d'autres aussi, c'est des bons gars. Il y en a d'autres, des bons conjoints, des bons pères de famille. C'est ceux-là qu'il faut entendre présentement. C'est ça qu'on va entendre. Fait qu'on va laisser faire. Là, le maire de Bromont était supposé être avec nous autres, mais il est avec Isabelle Maréchal à Cogeco. Mais Isabelle Maréchal est 15 minutes en retard. Fait que là, nous autres, il faudrait attendre après la désorganisation de Cogeco pour avoir nos invités. On va voir si on va le passer, je suis pas sûr. Parce que vraiment, moi, quand je dis je vais être là à 10h30, je suis là à 10h30. Puis nous, on est prêts à faire l'entrevue. On était prêts à faire l'entrevue. Mais là, parce qu'il y a des retards à l'autre radio, ben ils nous repoussent. Pas sûr qu'on va passer. Puis c'est de la faute à personne ici, là. C'est les communications, puis c'est Cogeco, là, qui est tout croche à matin. Ça, moi, nous autres, on n'a pas à pallier à ça, là. C'était à faire l'inverse. C'était de mettre en attente Isabelle Maréchal, puis venir là où il s'est engagé de venir, Louis Villeneuve, maire de Bromont. Fait qu'on verra si on fait l'entrevue. Peut-être quelqu'un d'autre à Cube Radio va avoir le goût de la faire. Moi, j'ai pas tellement le goût de faire ça. Quand on s'engage, on se présente, puis on dit 10h35, 10h38, 10h40, parfait, on vous attend, on va être là, on va vous attendre. Là, tout à coup, ben non, parce qu'il y a 15 minutes de retard à Cogeco, nous autres, il faut qu'on attende. Moi, ça marche pas de même dans la vie. Fait que Anaïs Gertin-Lacroix va faire sa chronique drette là. Elle est avec nous. Madame Gertin-Lacroix, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Non, mais c'est-tu trop demandé de respecter sa parole, d'être ponctuel, puis de dire si je m'engage à être là, puis quelqu'un d'autre me retarde, bien, c'est l'autre personne qui retarde qui devrait gérer son retard. C'est pas à moi à gérer le retard d'Isabelle Maréchal.
Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ponctualité, mon Benoît, c'est une des choses les plus importantes. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Tu t'es marié, toi, l'été passé?
Oui, puis j'étais à l'heure.
Étais-tu en retard, c'est ça? Jean-Philippe?
Non, le pire, là, ouais. Je te jure que les invités étaient conviés à 15h pour la cérémonie et je voulais à 15h. Moi, ça me gosse. Il n'y a rien de pire que ce soit pour un mariage, que ce soit pour un spectacle, mais que tu peux t'appeler Madonna. Si tu arrives 2 heures en retard, ben, c'est un doigt d'honneur puis je sac mon camp. Moi, j'ai vraiment, mis à part si c'est un défi technique, là, faut vraiment que tu aies une bonne raison parce que sinon, les retards, ça ne passe pas, peu importe qui tu es dans la vie. Puis là, Benoît, tu parlais en fait de violence puis des garçons qui devraient prendre la parole. Puis vite comme ça, je me disais, t'as raison parce que Étienne Boulay lui a pris la parole lorsqu'on parle de consommation, entre autres, de drogue, d'alcool. Oui. On a vu Claude Legault dans les dernières années qui a pris la parole, lui, sur la santé mentale. Laurent Duvernay-Tardif qui a pris la parole pour parler vraiment de l'effort physique, de l'importance. Donc, il y a plusieurs hommes qui ont pris la parole, mais vraiment, vite comme ça, là, j'essaie d'associer violence à l'égard des femmes ou violence tout court, j'ai pas vu encore d'hommes. Il y a eu énormément de femmes. On pense entre autres à Ingrid Falaise, mais des gars qui ont pris la parole. Peut-être que je me trompe, corrigez-moi s'il y a quelqu'un, mais j'ai personne qui me vient en tête.
En 2005, quand j'ai quitté les Francs-Tireurs, quand j'ai été viré des Francs-Tireurs, parce que ça allait pas bien après le document avec Manon Brunel, là, j'étais pas bien, moi, là. J'avais une passe difficile, personnelle, professionnelle aussi, puis je me suis ramassé à TQS, puis ça s'est replacé. Mais je voulais faire ça, moi. Je voulais amener des hommes connus dans les polyvalentes. et filmer ça pour les francs-tireurs pour qu'on les entende parler aux jeunes.
Ouais.
Puis arrêter avec l'honneur, puis avec, tu sais, tu m'appartiens. Il faut inculquer ça à nos gars, là. Faut changer la façon de voir les relations entre les gars et les filles, la jalousie entre les gars et les filles, les hommes et les femmes. Tu sais, il y a vraiment du travail à faire. Puis je pense que les hommes peuvent se ramasser, ils peuvent faire des démarches pour essayer de comprendre puis de changer. Mais là, il faut qu'il y ait un effort public. Puis moi, en tout cas, on va faire l'exercice avec Jean-Charles à midi. On a appelé, tu sais, imagine un joueur du Canadien qui sort, imagine Georges Saint-Pierre, imagine quelqu'un des Alouettes, quelqu'un de l'Impact ou je sais pas comment il s'appelle aujourd'hui, là, le club de soccer à Montréal. Il me semble que ça changerait. Il me semble que les jeunes pourraient pas, ça pourrait pas passer inaperçu là, comme message.
Ben non, puis on l'a vu même là avec la déesse des mouches à feu qui vient de retourner en salle. Il y a une campagne justement contre l'intimidation. Ce sont les acteurs du film qui, il y a des posters qui ont été affichés dans les écoles avec des phrases comme tu sais, on t'aime, on est là si t'as besoin de parler. Tu sais, on a l'intimidation, Benoît, dans les dernières années a vraiment été placardée partout dans les milieux scolaires et c'est parfait. Mais on pourrait faire une aussi belle campagne de ce qu'on a vu aussi avec la communauté LGBT. Non, mais on a avancé en termes de société. Il y a plusieurs personnalités qui ont pris la parole, mais pour la violence, ça passe toujours en dessous du radar.
Non, mais la violence, je veux pas te corriger, Anaïs, mais faut compléter la phrase. La violence envers les femmes.
Envers les femmes, t'as
raison. Que si c'était la violence envers tout autre groupe de la société, je veux pas en nommer un plus que l'autre, là, il y aurait une action qui serait prise. Ça fait longtemps qu'une action aurait été prise. T'sais, mais là, parce que c'est envers les femmes, comme c'est moins grave, c'est qu'est-ce que tu veux, les gars, les filles, ça se passe demain. On peut pas accepter ça. On peut pas laisser aller, tu sais. Puis il y a des solutions au problème. Donc on va revenir sur le sujet parce que le pire, c'est que là, il y a 5 femmes qui ont été tuées dans un contexte de violence conjugale ou familiale jusqu'à maintenant au Québec. Puis il y en a eu 8 en 2020. Fait qu'il se passe quelque chose. C'est la pandémie, mais c'est l'occasion, là, malheureusement, trop tard pour ces femmes-là, mais l'occasion d'éviter qu'il y en ait d'autres. Là.
Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
On travaille là-dessus. En tout cas, tout le monde est invité à mettre l'épaule à la roue dans ce discours. Tu veux nous parler du Cosmic Love?
Hey, là, je vous parle. Moi, je trouve ça vraiment flyé, Benoît. Puis, tu sais, j'ai mon téléphone cellulaire pour travailler, mais je ne suis pas la personne la plus technologique. Okay? Donc là, moi, quand la réalité dépasse la fiction, je vais t'avouer que par moments, je débuzz un peu. La première, c'est quand même, il y a quelque chose d'assez charmant dans tout ça. Toi, on sait que tu as une belle plume. Là, on est à la recherche et jusqu'au 7 mars prochain de 1000 lettres d'amour, Benoît, et le titre du site, je trouve ça un peu étrange, c'est « Adopte un mec », mais c'est vraiment en lien avec la NASA. Donc, ce sont des lettres d'amour qui seront envoyées dans l'espace. Donc, chaque lettre va faire 100 millions de kilomètres. Donc, c'est l'aller-retour de la Terre à Vénus. Elles seront écrites avec, bon, de l'encre spatiale parce que les rayons du soleil pourraient abîmer l'encre et ça va être mis à bord, en fait, de Falcon 9 de SpaceX. Donc, c'est pas un petit projet bâtard. C'est vraiment un immense projet sera lancé au mois de novembre 2021. Donc là, on invite les gens à aller sur le site que j'ai mentionné, Adopte un mec, t'écris ta lettre. Les gens vont voter ensuite pour les 1000 plus belles lettres qui seront envoyées dans l'espace. En tout, c'est 6 mois. Et par la suite, le destinataire va recevoir la lettre. C'est quand même flyé.
C'est fou,
c'est Red. Flyé.
Mais c'est le fun. Ça nous fait rêver, ça.
Ça, je trouve que c'est le fun. Ça peut nous faire rêver. Tu vois, tu sais, on est dans l'avenir. Là. Jamais on aurait pensé, il y a plusieurs années, pouvoir envoyer des lettres d'amour dans l'espace. Rassurez-vous, les empreintes carbone, coût carbone, c'est vraiment nul. En plus, on veut faire des recherches avec tout ça. Donc, moi, ça, j'embarque. C'est une nouvelle que je trouve quand même assez sympathique. Là où j'ai bien de la misère, Benoît, c'est la première pièce de théâtre écrite avec une intelligence artificielle qui a été mise en ligne le 26 février dernier. J'ai écouté quelques passages. C'est particulier sur un moyen temps. Là, je vais vous faire entendre la bande-annonce.
Robots can do a lot. They can tell you the weather. They drive cars. And even fly airplanes. And paint paintings. But can they write a theater play humans will actually enjoy?
Écoute, OK, donc là...
moi, j'aime ça, ces bandes-annonces-là.
Hey, puis c'est un gros robot qui tape sur des lettres sur un ordinateur, mais bon, c'est une pièce de 60 minutes. Mais non, c'est des acteurs là, qu'on voit sur scène. Le texte a été écrit par l'intelligence artificielle. Le titre, en fait, de la pièce de théâtre, c'est « Quand un robot écrit une pièce », donc on ne sait pas vraiment casser le bécic. Et en fait, il y a 10% du texte qui ont été rédigés par des ingénieurs en informatique. Et ensuite, on a lancé ça dans un programme d'Elon Musk qui se nomme Open Hall. C'est pour ça, là, aujourd'hui, je vous parle de tout ce qui est un peu sort d'ordinaire. Et ce site-là, en fait, ce programme-là est utilisé depuis de nombreuses années, notamment pour écrire des fake news. Donc, on utilise tout ce qu'on voit passer sur le web pour écrire soit des nouvelles. Donc, il y a des thèmes qui sont récurrents. Et dans la pièce de théâtre, le thème qui est le plus récurrent, c'est le sexe. On le sait, Benoît, sur Internet, comment il y a du sexe. C'est pas toujours non plus dans
je
le
sais
respect.
Pas. Je
ben,
sais pas.
C'est une réalité. Et c'est ce qu'on voit dans cette pièce de théâtre-là. Les acteurs qui sont sur scène pendant 60 minutes, c'est très décousu. C'est vulgaire comme jamais. On dit que ça va prendre 15 ans avant qu'une intelligence artificielle puisse écrire une pièce de théâtre au complet sans qu'il y ait quand même un 10% d'humain derrière. Donc, on parle de solitude, on parle d'amour et les dialogues entre les personnages, là, ce sont des mots qui existent à moitié. C'est vraiment, mais vraiment particulier. Lorsque ça a été diffusé aussi le 26, il y a eu des bugs techniques tout le long. Donc, il y a quelque chose aussi d'assez cocasse de faire. OK, c'est un robot qui écrit la pièce, mais on n'est pas capable de diffuser ça sans qu'il y ait des problèmes en onde. Mais tu sais, dans un contexte actuel, Benoît, juste au Québec, il y a tellement d'artistes qui ont du talent, qui voudraient écrire une pièce de théâtre et qu'elle soit diffusée. Puis là, c'est non. Pas besoin. On a un robot, nous, qui écrit une pièce de théâtre qui est mauvaise. Puis on va diffuser ça à l'échelle mondiale parce que, bon, la première fois, c'était accessible surtout à Londres. Il y avait un site bien particulier, on déboursait pour voir la pièce. Et là, dans les prochaines semaines, on a vraiment envie de rendre ça accessible mondialement parce que la première représentation a été vue par, je dirais, 16 000 personnes, là, ce qui est pas énorme. Mais même The Garden dit que c'est un flop total. Mais ça reste la première pièce de théâtre complète de 60 minutes écrite par l'intelligence artificielle.
Mais t'es pas curieuse de voir de quoi ça a l'air?
Ben, on voit quand même des images. Comme je te dis, sur Internet, si vous entrez le titre « Quand un robot écrit une pièce », on peut voir 2-3 minutes. Et c'est ça, t'as les acteurs qui... Il n'y a pas de dialogue. C'est pas « Allô, comment ça va? Oui. » Puis je peux pas dire ce qu'ils disent parce que c'est « Mets-moi un doigt dans le bip ». C'est vulgaire à souhait parce qu'ils n'ont rien modifié de ce que l'ordinateur a écrit.
Au moins, c'est pas un raisin.
Non. Ben, vas-y, Trisac. Hey.
OK. Alors, il y a
donc
aussi au Japon des robots qui sont compagnons du réconfort pendant la pandémie.
Ben oui, parce que là, les assistants personnels virtuels ont la cote depuis de nombreuses années. Ouais, même Google, Amazon, on pose une question, on nous répond. Moi, jusque-là, ça va. Mais là, il y a une entreprise japonaise qui a décidé de lancer le robot. Il peut parler, oui, mais il peut danser. Il sert aussi de téléphone. Et c'est un petit bonhomme, Benoît. Donc, il a une tête, des yeux, un petit nez rouge, comme Willy Willy, où il y avait un ours quand j'étais jeune à la télévision, peu importe. Donc, c'est un petit bonhomme que tu gardes à côté de toi, à qui tu peux parler. Et là, ce qui est particulier, c'est que ça fonctionne énormément, notamment au Japon, ça a augmenté de 130% les ventes parce que la majorité, beaucoup de gens qui sont vraiment, on parle d'animisme, ouais, lorsqu'on pense qu'un objet peut avoir un âme. Donc, les ventes explosent et il y a une jeune fille, entre autres, qui en parlait dans le New York Times, qui a 23 ans, qui dit depuis le début de la pandémie, je vois presque plus mes amis. Donc, ce robot-là est rendu mon ami. Mmh. Mais encore là, parfait si ça peut contrer la solitude, mais en même temps, c'est un robot, Krembin, Benoît. Achète-toi un chien, fais des zooms avec tes... Lis des livres.
Mais le robot fait pas de crotte.
Mais il fait pas de crotte, mais Benoît, je me vois pas interagir avec mon robot, tu comprends? Puis il est tout mignon, là, c'est un petit robot. J'ai bien de la difficulté. Moi, je lis tout ça aujourd'hui, puis je me dis... Ben non, c'est trop.
Bon, ben écoute, c'est beau pour cette intelligence artificielle pour aujourd'hui. Je pense que c'est assez. Bientôt, ils vont mettre des animateurs radio avec de l'intelligence artificielle. Puis on va voir une grande amélioration. Parfait. Anaïs, merci.
Salut, Benoît.
Salut.
Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gertin-Lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio.
Bon, moi, je peux pas être impoli dans la vie, là. Il y a M. Villeneuve qui est avec nous, maire de Bromont. Bonjour, M. Villeneuve.
Oui, bonjour, M. Dutrisac.
Hey, dis donc, vous là, ça fait une demi-heure que les médias vous font perdre votre temps. Ça, c'est du vrai niaisage. J'imagine que vous avez autre chose à faire dans votre journée que d'attendre après les animateurs désorganisés.
Écoutez, on a... il y a du travail à faire, effectivement.
Bon, alors là, hier, comment vous avez réagi? Parce que vous, à Bromont, on vous a identifié parce que vous êtes pas loin de Montréal, vous êtes populaire, les gens vont faire du ski chez vous, ils vont au restaurant chez vous, ils ont des chalets chez vous, les gens de Montréal. Est-ce que ça vous inquiète?
Écoutez, inquiète, ça fait un an qu'on fait de la sensibilisation et qu'on demande aux gens qui viennent chez nous, de par exemple, puis plusieurs le font, de faire leurs courses avant d'arriver. Une fois qu'on est rendu dans notre bulle, dans notre chalet, il n'y a pas de problème, on prend l'air. Bromont, 140 km de sentier, je veux dire, il y a de la place pour la distanciation et tout ça. Maintenant, de passer à zone orange, je vous avoue franchement, moi, je m'attendais peut-être à ce que ça se fasse une semaine et demie, deux semaines après la relâche. Maintenant, je dispose pas de toutes les informations qu'ils ont au gouvernement du Québec, alors je vais pas faire mon gérant d'estrade. Là, ils nous disent qu'on est zoné orange à compter de lundi. Je pense que les citoyens vont être heureux. Il y a aussi tous nos restaurateurs, il y a un gym à Bromont, il y a une salle de spectacle, les églises et tout. Alors, ouais. Je pense que c'est un beau privilège qu'il ne faut pas perdre. Moi, c'est surtout ça, là.
Mais pourquoi vous attendiez à virer orange peut-être deux semaines après la fin de la relâche?
Ben parce que je regarde ce qui s'est passé aux fêtes. On a vu qu'après la période des fêtes, une semaine et demie, deux semaines après, c'est reparti en flèche parce que les gens n'avaient pas respecté les consignes. Alors, la relâche, on aura ce bilan-là probablement à peu près la même période après la fin de cette semaine, ouais. J'imagine.
Avez-vous le sentiment, M. Villeneuve, que la même chose va se reproduire?
Écoutez, je suis un éternel optimiste. Je me dis que les gens ont sûrement appris de la période des fêtes. Bromont, on a eu quelques cas. Là, il y en a qui ont été médiatisés, là, de gens qui respectaient pas. Mais je vais vous dire que pour le reste, ce que j'ai comme rapport du service de police, c'est que ça se passe quand même assez bien.
C'est pas chez vous, ça, que ça coûte cher de faire un feu entre amis?
En fait, pas juste chez nous, c'est partout au Québec où les gens veulent faire des feux entre amis sur leur terrain et qu'il y a une dénonciation. Bien évidemment, Louis Villeneuve roule sur l'autoroute à 140 parce qu'il fait attention et il n'y a pas de trafic, mais s'il y a un policier avec un radar, je vais avoir à payer une contravention.
C'est ça.
Les gens le savaient, puis ils ont été pris, puis ils savaient exactement ce qu'ils faisaient d'ailleurs, ils savaient que ce n'était pas permis. Vous me permettez, M. Dutrisac, parce que je veux pas lancer de pierre à personne, nous sommes des êtres intelligents, pensants. On peut avoir des raisonnements par rapport aux mesures qui sont là. On peut être d'accord, pas d'accord. Jusque-là, ça va. Mais à un moment donné, il faut penser à l'ensemble de la population puis se dire que si on veut sortir de là, si chacun de son côté prend ses petites mesures à lui, on n'en sortira pas.
C'est ça, hein? C'est ça. Puis tout le monde essaie de trouver des failles aux consignes parce qu'il faut comprendre les consignes dans leur ensemble puis pas faire exprès, tu sais, puis de se mettre à risque ou mettre les autres à risque. Est-ce que vous auriez aimé, M. Villeneuve, qu'il y ait des barrages, des guérites, des mines antipersonnelles, des tueurs, des tireurs d'élite? Mais tu sais, quelque chose. Oui, c'est
non,
ça.
Écoutez, nous, on a fait des barrages, M. Dutrisac, dans la première vague. On a fait plusieurs barrages. Maintenant, il faut savoir que le service de police a des pouvoirs quand même limités. T'sais. On faisait beaucoup de sensibilisation. On a fait beaucoup. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, là, on est rendu le 4 aujourd'hui, ou le 5, le 4, février. Si on n'est pas sensibilisé, là, c'est parce qu'on a manqué quelque chose.
M. Villeneuve, on est le 4 mars.
Ouais,
pas février.
Le 4 mars, ça fait un peu plus. Il est-tu mêlé,
on est tous mêlés. Faites-vous-en pas. Là.
Fait un peu plus d'un an maintenant. Donc, je pense qu'on est sensibilisé. Puis, il n'y a pas de raison qu'on. Puis, d'ailleurs, le gouvernement du Québec, juste avant les fêtes, on dit c'est fini la sensibilisation. On demande aux services de police
d'appliquer les règles.
En mode émission de consignes. C'est ce qu'on fait.
Avant qu'on se quitte, M. Villeneuve, là, puis je comprends ce qui s'est passé là, tantôt. Là, c'est pas grave. Est-ce que vous avez un œil sur les pentes de ski parce que une fois sur la, moi j'en fais pas là, une fois sur la pente, je comprends qu'il y a une distanciation entre les, mais dans les chaises, rendus en bas là, les gens ont pas de masque puis ils sont pas loin les uns des autres. Qu'est-ce que vous faites pour assurer une certaine sécurité?
Ben, en fait, moi je peux pas faire grand chose parce que ça c'est vraiment c'est le gouvernement du Québec qui a donné les autorisations aux centres de ski avec des règles à suivre. Je sais qu'ils ont beaucoup de personnel là qui surveille les gens dans les files d'attente. Montez votre masque, éloignez-vous. Dans les chaises, ils peuvent pas être plus que tant de personnes. Je pense qu'ils font respecter les règles. Je vais vous dire, cette année, j'ai même pas eu le temps, imaginez-vous, c'est quasiment honteux, mais j'ai pas eu le temps d'aller faire du ski une fois, là.
Alors,
ce qu'on me dit, c'est que ça va quand même assez bien. Il y a eu surtout des débordements à l'intérieur, à l'extérieur des stationnements, des choses comme ça, mais on a travaillé sur ça. Mais une fois que les gens partent du centre de ski, ils s'en retournent à la maison.
Mais les restaurants sont ouverts, là. Les gens vont pouvoir
aller. Ils vont être ouverts.
Jusqu'à 9h30. Jusqu'à 9h.
Jusqu'à 9h.
9h.
Puis après ça, 9h, les restaurants ferment. Donc, on aura des restaurants qui sont ouverts pour ce qui est des gens des zones rouges qui vont venir pareil, si ce n'est pas recommandé. Eux sont encore à 8h comme couvre-feu. Donc, je pense, des débordements dans les restos.
Bon, mais il devrait avoir des spéciaux FADOC, tu sais, comme souper à 4h30. Puis pouvoir sortir puis retourner à la maison pour 8h. Écoutez, bonne chance avec la ville de Bromont, puis la Montérégie qui est rouge et pas loin de chez vous. Fait que on va voir s'il y a des snoreaux qui vont vouloir profiter de la situation.
On verra ça dans quelques semaines, M. Dutrisac. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Belle journée.
Bonne journée.
Merci, au revoir.
Dutrisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Dutrisac.
Là, on parle d'une quarantaine d'infirmières. On va voir si le chiffre est bon. Au soutien à domicile de l'Est de Montréal qui doivent rembourser environ 3 000 en primes COVID versées, paraît-il, par erreur depuis le début de la pandémie. Avec nous, il est président de la FIC, Syndicat des professionnels en soins de l'Est de l'île de Montréal, Denis Cloutier. Monsieur Cloutier, bonjour.
Bonjour, M. Dutrisac.
Bon, expliquez-nous ça, là. Il y a un arrêté ministériel qui disait que les primes étaient offertes aux travailleurs des CHSLD privés et publics, compris les résidences privées pour personnes âgées, ce qu'on appelle les RPA, les ressources intermédiaires et certains milieux désignés comme des centres hospitaliers. Et là, expliquez-moi pourquoi on demande à des infirmières de rembourser la prime COVID.
Donc, vous avez bien cité, là, exactement, tout à peu près, là, pour simplifier un peu, là, toutes les ressources où les patients dorment. C'est ma façon la plus simple de faire comprendre au monde. Toutes ces ressources-là, centres hospitaliers, RPA, CHSLD, vous les avez nommés, ces endroits-là, les membres de la catégorie que je représente, infirmières auxiliaires, nalothérapeutes, ont droit à la prime de 1000 $ ou prime d'assiduité, là, qui a été versé là, dès le début de la COVID, qui a suivi l'application de l'arrêté 007 qui est venu changer nos conventions collectives. Si vous voulez, comme pour compenser, il y avait un arrêté pour donner des primes, mais tous les gens des CLSC, incluant les infirmières du SAD, n'ont pas le droit à cette prime-là.
OK. Quand vous dites, M. Cloutier, 1000 $ là, c'est 1000 $ par semaine, par mois, par année, par quoi?
C'est un 1000 $ par mois là, qui est associé à une de 5 jours par semaine. Faut pas que tu manques de journée. Puis là, c'est un peu compliqué. Là, il y a une première 100 $ pour la première semaine, ainsi de suite, pour un total de 1000 $ par mois.
OK. Alors là, les infirmières ont appris qu'elles devaient, quoi, à peu près 3000 $ chacune?
Oui. Il y a un petit groupe là parmi toutes les infirmières qui travaillent en CLSC, là, donc un groupe du soutien à domicile dans la section à Pointe-aux-Trembles, là. Il y a une partie d'entre elles, entre 40 et 60 filles, qui ont reçu cette prime-là du mois de mai dernier jusqu'au mois de novembre, qui leur a été versée comme ça par erreur par notre employeur. Puis à ce moment-là, quand l'erreur leur a été rectifiée, on demande à ces filles-là de rembourser les sommes qui leur ont été versées.
Mais ce sont, M. Cloutier, des infirmières, ces femmes-là. Est-ce qu'elles prodiguent moins de soins que les autres infirmières?
Ah non, puis c'est ça qui est le plus effrayant, si vous me permettez l'expression, dans cette situation-là, c'est que les infirmières du stade, là, du soutien à domicile,
ouais,
directement touchées par la pandémie, là, en partant, la moitié à peu près de leurs collègues ont été délestés à un moment ou à un autre dans les CHSLD pour aller prêter main forte. Ce qui fait qu'elles, qui s'occupent du soutien à domicile, doivent composer avec de plus en plus de cas, mais de moins en moins de personnes pour offrir les soins. Mm-hmm. Quand elles se présentent au domicile des patients, souvent, ces domiciles de ces patients-là sont des RPA, des RI, dans lesquels où les gens qui travaillent ont le droit à la prime, mais elles se déplacent dans ces ressources-là, doivent faire tous les protocoles pour éviter d'être contaminées et tout, mais elles n'ont pas le droit à la dite prime.
Mais là, c'est l'erreur de quoi? Des gestionnaires du CIUS?
Ben écoutez, à mes yeux, à moi, la première erreur la plus importante, c'est le ministère qui n'a pas donné cette prime-là à ces filles-là pour considérant tout le travail qu'elles font en ce moment. Mais l'erreur, à proprement dit, pour le groupe de 40 à 60, c'est une erreur, oui, qui a été faite par le service de la paie du CIUS de l'Est de l'île de Montréal.
OK, puis qu'est-ce que ça représente, cette prime COVID, là, de 1 000 par mois, disons, environ, là? Parce que si entre 40 et 60 infirmières là, qui doivent rembourser, on parle entre 120 et 180 000 dans le budget du ministère de la Santé, je suis pas sûr que ça fasse une grosse graphine. Je pense pas que ça change grand-chose. Qu'est-ce que ça change pour ces infirmières-là? Quel message leur envoie-t-on?
Ben, c'est ça qui est important. C'est le message qui est négatif derrière ça. Ces filles-là, comme toutes les autres infirmières là, qui travaillent au SAD, là, parce qu'au-delà de ce groupe-là, il y a toutes les autres infirmières du SAD au Québec, puis des infirmières en CLSC qui n'ont pas le droit à cette prime-là. Comme tout le monde, elles subissent les contre-coups de l'arrêté 007. Elles subissent les contre-coups de la pandémie. Leur travail en est affecté. Fait que c'est vraiment honteux que cette prime-là ne leur soit pas versée. Donc, c'est vraiment l'erreur, là, si vous voulez, elle a d'abord été faite au niveau du ministère à ce moment-là. Pour l'erreur à proprement dit au niveau du CIUS, ben là, il y a des politiques là, sur des erreurs de la paie. Le CIUS, je peux pas leur en vouloir à eux directement parce que je pense pas qu'ils ont le pouvoir de décider, bon, l'erreur a été commise, je leur laisse l'argent. Là, c'est très protocolaire la façon qu'on leur demande de gérer.
OK. Mais là,
l'injustice provient de Québec.
Là, OK. Donc, vous faites appel à quoi? Au ministre Dubé?
Ah oui, j'implore encore une fois le ministre Dubé, comme on fait depuis le début que cette prime-là a été donnée, pour dire que c'est totalement injuste qu'on laisse un grand pan des soignantes au Québec qui sont directement impliquées dans le combat contre la COVID ne pas avoir droit à cette prime-là, qui est totalement discriminatoire selon nous.
Parce que des primes, là, on a accordé avec raison, pardon, même dans les supermarchés, on a accordé des primes COVID. Là, Métro et tous les autres supermarchés ont supprimé ces primes-là parce qu'ils faisaient pas assez de profit. Puis de 1$ ou 2$ de l'heure, c'était déjà trop pour les travailleurs en supermarché. Mais des primes, là, on en a donné aux préposés, aux bénéficiaires. J'imagine que les médecins en reçoivent. Là, quand c'est le tour des infirmières, là, on commence à faire de la discrimination puis à faire des catégories.
Bien, on fait vraiment des catégories en fonction, là, bêtement, de dire que tous les services, donc, externes là, de CLSC, comme le soutien à domicile, comme je vous disais,
ben oui,
tous les patients ne dorment pas, là, c'est comme si on juge que ce travail-là est moins important, alors que pendant la pandémie, toutes les forces soignantes ont été mobilisées. Là.
Ouais.
La moitié de ces pays-là ont été délestées à un moment ou un autre en CHSLD, interviennent dans des ressources parce qu'il y a des cas de COVID, mais n'ont pas le droit à la prime parce que leur affectation est au SAD et non pas à la ressource elle-même. C'est une aberration à mes yeux.
OK, M. Cloutier, corrigez-moi si je me trompe, là, mais l'est de l'île de Montréal, Pointe-aux-Trembles, c'est zone rouge, là, sauf erreur, là, c'est toujours Montréal?
Ah oui, oui. Puis quand je dis l'est de l'île de Montréal, c'est beaucoup plus que Pointe-aux-Trembles. Ça inclut les hôpitaux Maisonneuve-Rosemont, Sainte-Catherine, là.
Ah oui.
Plus vers l'ouest, là. C'est le secteur de Pointe-aux-Trembles qui a été visé par l'erreur. Mais j'ai des filles qui travaillent au SAD dans tous les secteurs, Hochelaga-Maisonneuve, Saint-Léonard, Saint-Michel. Tous ces filles-là n'ont pas le droit à la même prime.
Et qu'est-ce qui arrive si ces femmes-là, ces infirmières-là disent « Hey, sais-tu quoi? Je prends un mois en sabbatique juste pour protester. On peut pas, là, parce qu'on a tous des comptes à payer. Mais et si ces femmes-là se retiraient des services qu'elles donnent, est-ce qu'on commencerait à faire les fins finaux sur les primes? »
Ben, écoutez, là, moi, là, je comprends ces femmes-là de vouloir protester. Comme vous avez dit eux-mêmes, de là à se mettre de côté, tu sais, tout le monde a des comptes à payer.
Ben oui.
Vie à vivre. Moi, je souligne surtout leur engagement, puis tout ça, puis, tu sais, la population a besoin de leur engagement. Le soutien à domicile est hyper important. Il y a des gens vulnérables qui restent à domicile. C'est vraiment pas conseillé de les envoyer dans les centres hospitaliers quand il y a de la COVID, puis tout ça. Fait que leur rôle est important. Je les encourage, je les supporte dans leurs moyens de protester. On implore le ministre de la Santé de reviser cette injustice-là pour donner le droit aux primes à tous ces gens-là qui ont un travail hyper important
en temps de COVID,
autant que ceux qui travaillent dans les centres hospitaliers, si vous me permettez.
Avez-vous fait un appel au bureau du ministre de la Santé? Est-ce que vous vous êtes adressé directement à lui?
Moi, personnellement, là, j'ai beaucoup travaillé conjointement avec ma fédération, la CIC, là. Puis je sais que depuis le début, je travaille avec la responsable de la table nationale. Puis cet enjeu-là a été nommé et renommé. On tente de sensibiliser le ministère. Mais c'est toujours l'enjeu avec les arrêtés ministériels. Hein. C'est pas des trucs négociés. Le 21 mars, ça fera un an que notre convention collective ne s'applique plus à cause de l'arrêté 007.
Mmh.
Fait que l'arrêté qui vient donner des primes, c'est un peu pour compenser tous ces inconvénients-là.
Mmh.
Puis comme je vous dis, les filles en externe, en TLC, ils subissent autant que les autres.
Alors, arrêté 007, c'est l'arrêté James Bond, ça. C'est le permis...
C'est l'arrêté là, qui vient altérer, si vous voulez, là, notre convention collective pour donner le droit à l'employeur de rehausser le monde, les déplacer dans un autre secteur. Alors, les changer de corps de travail sans préavis, c'est très, très pénible, cet arrêté-là. Ça a été terrible au niveau de la rétention puis l'attraction du personnel.
Bon, ben, l'appel est lancé, M. Cloutier. On va voir si le ministre de la Santé, M. Dubé, va y répondre. Je vous souhaite bonne chance.
Un gros merci, M. Dutrisac.
Ça marche. Au revoir.
Bonne fin de journée. Au revoir.
Dutrisac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
Dutrisac.
Geneviève Peterson est partie quelque part dans un tout inclus. Je suis sûr qu'elle est à Cuba ou ça s'arrangera avec ça lundi. Non, c'est pas vrai, je ne sais pas. Vincent Dessureau prend la relève. Qu'on entend un peu partout à Cube Radio. Aussi en balado.
Oui, tout à fait, que Dieu bénisse l'Amérique, où on s'intéresse à la politique américaine depuis. Ça devait être d'ailleurs être un podcast juste pour l'élection.
Puis,
finalement, l'après-élection était beaucoup plus le fun que l'élection. Ouais, alors, on est resté en onde, puis là, ça dure encore.
C'est pas fini. Tu devais être heureux de voir Trump revenir à la charge à l'American Conservative Union. Là.
Oui, ben oui, moi, j'haïs pas ça. J'ai l'impression que il va nous garder quand, parce qu'il n'est plus au pouvoir, mais il va nous garder quand même entertainé pendant un certain... Ben, au pouvoir chez les républicains.
Ah, c'est
Mais ça, je pense, c'est un plus gros casse-tête pour les républicains. Les démocrates, est-ce que oui, là, ils ont des problèmes. Là. Puis en 2022, ça va arriver vite. Puis... Mais reste qu'ils sont au pouvoir. Puis pendant ce temps-là, ils vont regarder le freak show chez les républicains. Puis
Il va peut-être mourir entre-temps, Trump.
C'est sûr, là, il est quand même plutôt en forme pour son âge, mais ça peut lâcher vite. Là.
Non, il a l'air plus en forme que moi.
Ah bon, juste du diet Coke puis, ou du diet Pepsi, je me souviens plus.
Il n'y a pas de recette pour le bonheur, Vincent. Faut apprendre ça.
C'est vrai.
Moi, je suis rendu à un âge.
Des bonheurs simples.
Ça. Exactement. Là, aujourd'hui, là, c'est le jour pour inviter à ta table, tendre la main à un QAnon.
À ton QAnon préféré. C'est le temps. Moi, je pense qu'il faut quand même le dire sur le fait que... Parce qu'il y en a, on rit quand même beaucoup. Je m'inclus, là, de QAnon. Puis le 20 janvier, là, quand tous les plans s'effondraient... Je souriais, là. Je trouvais ça quand même drôle parce que
le nombre d'insultes qu'on a. Plans de la révolution.
Tout à fait. Le fait que Trump devait être investi au lieu de Joe Biden. Et là, aujourd'hui, c'était comme on a repoussé les buts, là, jusqu'au 4 mars. C'est la cinquième date, hein, qu'on met pour Trump qui reprend le pouvoir. C'est pas la deuxième, c'est la cinquième date. Et donc, évidemment, ça arrivera pas aujourd'hui. Joe Biden va être encore président demain matin.
La journée n'est pas finie.
Mais en fait, le plan B, c'est Kamala Harris. Joe Biden, il arrive quelque chose, mais ce ne sera jamais Donald Trump aujourd'hui. Et c'est dans ces moments-là difficiles pour le mouvement que je pense que vous avez une poignée. Si vous avez, parce qu'au-delà des rires, il y a des drames familiaux, il y a des gens qui sont séparés de leur famille parce qu'ils ont tellement insulté leurs proches sur le fait qu'ils ne croyaient pas à cette fumisterie qu'ils se sont isolés. C'est quand même des dossiers tristes parce que souvent, les gens, à un moment donné, s'en rendent compte qu'ils se sont fait avoir et qu'ils ont perdu là, des amitiés, des membres de la famille et d'innombrables heures là-dedans. là-dedans sur Internet.
Absolument. Et, c'est sérieux. Là.
Oui, oui, ça amène à des cas de dépression parce qu'évidemment, comment tu peux avoir confiance en toi quand tu sais, OK, j'ai été berné de cette façon-là, mm-hmm. puis vocalement, là, j'en parlais à tout le monde, puis t'es dans ma cave de ne pas croire à ça. Et là-dedans, je pense qu'il faut faire preuve de compassion et essayer d'aller les rechercher, parce que juste rire d'eux autres, ça marche pas. Là. Nous, on peut rire d'eux autres, mais quand c'est un proche là, que t'aimes...
Moi, je ris pas d'eux autres, parce qu'ils sont souvent armés.
Oui, c'est vrai.
Derrière, dans la cabine de leur pick-up, là, ils ont souvent une carabine. Là.
Oui, moins au Canada.
Ouais.
Mais,
dans l'Ouest.
Mais c'est qu'il y a quand même une partie vraiment de monsieur et madame tout le monde qui sont tombés là-dedans pendant la pandémie.
Ouais.
Et quand les prophéties n'arrivent pas... Et la science le prouvait, c'est là qu'ils sont chambranlants et qu'on peut, avec une approche douce quand même, pas dire t'es donc ben cave puis juste rire d'eux, parce que la plupart reçoivent les textos à l'inverse. Quand ils ont envoyé, regarde bien ça le 4 mars, ben là, ils en reçoivent là, la revolée de bois vert. Alors peut-être leur parler demain, quand ils vont se rendre compte que rien se passe, les inviter à... Ben, on peut pas les inviter à souper, dépendamment de votre région, mais aller juste parler au téléphone, puis essayer de leur poser des questions, comment ça va, puis d'aller les rechercher, montrer qu'ils ont une... Si tu leur tends la main, ça se peut bien qu'ils l'apprennent.
T'es un optimiste, hein? Parce que peux-tu vraiment négocier? Moi, je mets ça dans la catégorie des intégristes.
Oui. Puis ben, c'est l'intégrisme, oui.
Tu peux pas discuter. Tu peux pas... Quelqu'un qui parle au nom de Dieu, tu peux pas discuter avec lui. Parce qu'il parle au nom de Dieu. Il a donc toujours raison.
Mais c'est quand il y a une craque, là. C'est pour ça que tu as tout à fait raison. Moi, quand ils sont vraiment dedans, il n'y a rien à faire. Là. Et arriver avec des arguments, ça ne fonctionne pas non plus. Là. Ils sont complètement imperméables aux arguments. Les électrochocs,
ça ne marche pas non plus.
Mais quand il y a une craque comme ça, il y a une chance. Et surtout, certains vont montrer un signe d'ouverture, parce qu'il y en a plein. Depuis le 20 janvier, là, il y en a beaucoup qui sont revenus à la réalité, à la vie normale. Plusieurs vivent justement cette honte-là, mais au moins recommencent à vivre normalement. Puis ça va avoir été un apprentissage de dire, OK, je suis vraiment vulnérable à ça et je vais faire attention à l'avenir. Donc,
Mais Vincent, honnêtement, là, comme phénomène social et politique, QAnon, là, c'est quoi son ampleur? Parce que, tu sais, on en parle, les suprémacistes blancs, puis ils vont révolutionner, ils vont prendre les armes, ils vont prendre le contrôle des villes.
Non. Ben, il y a vraiment deux mondes entre avant 20 janvier puis maintenant. Là.
Ah oui.
C'était en train vraiment de devenir un phénomène quand même, QAnon, parce que là, dans les manifestations pro-Trump, là, t'en comptais pas juste deux, là. C'était des pancartes partout, QAnon. C'était en train vraiment de devenir gros. Même chez nous, on reçoit des messages là, couramment de partisans de QAnon sur les réseaux sociaux. Mais là, depuis le 20, il y a vraiment... ça a cassé, non seulement parce qu'il y a rien qui était prévu qui s'est produit, mais aussi parce que les réseaux sociaux ont cassé les jambes au mouvement, supprimant de partout. Donc là, on se retrouve sur le dark web. Là, je comprends que tu as des forums sur le dark web, mais Jocelyne ou Alain, là, qui suit QAnon là, de loin, il n'ira pas là, sur le dark web pour s'informer. Donc ça devient davantage une affaire de petits groupuscules. Donc c'est d'ailleurs ce qui est le danger aujourd'hui. C'est pas qu'il y ait 10 000 personnes qui rentrent dans le Congrès et qui prennent le contrôle. Ce qui est un risque réel, c'est un mouvement plus isolé, de petites milices vraiment extrémistes. Et ceux-là sont plus durs à trouver parce que sur le dark web, sur des forums vraiment sécurisés, les policiers peuvent pas juste aller voir ça trop facilement. C'est plus compliqué de les suivre.
Mais à part le 20 janvier... Là.
Oui.
Et d'abord, il faudrait aussi donner les valeurs de QAnon aux gens, parce que, tu sais, toi et moi, on s'en parle comme si c'était évident, mais je pense qu'il faut aussi expliquer c'est quoi le mouvement.
Oui, rappelez que c'est un mouvement qui croit que Donald Trump est en guerre contre un mouvement, en fait, contre les élites américaines qui sont dans une secte pédo-satanique. Donc, ça comprend surtout des démocrates, mais aussi des vedettes de Hollywood, les médias. Alors, tout le monde dans une espèce de secte qui boivent, entre autres, du sang d'enfant, là, pour qu'il y ait une espèce de cure de jouvence. Et Donald Trump, lui, est en guerre contre ça et s'apprête à tout sortir, là, le mauvais, entre autres, à exécuter là, ceux qui sont derrière tout ça et reprendre le pouvoir dans une grande purge avec l'armée. Et ça, c'est une dérivée du Pizzagate là, qui était avant l'arrivée de Trump. Vous vous rappelez qu'il y avait une pizzeria à Washington qui, selon une analyse des menus, entre autres, tu disais quand il demande une pizza all dress, c'est pour un petit gars, quand il demande un spaghetti, c'est pour une petite fille. Là, j'ai pas les termes exacts.
Puis il y avait un sous-sol où ils détenaient des enfants.
Oui.
Puis ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de sous-sol.
avait pas de sous-sol. Mais d'ailleurs, quelqu'un qui est arrivé armé pour libérer les enfants et il n'y avait pas d'enfants parce qu'il
a frappé un mur,
tout à fait. Et Trump, pendant les 4 ans au pouvoir, n'a jamais dénoncé ce mouvement-là. À chaque fois, il dit « Ah, je suis pas trop au courant. Je sais que c'est des patriotes ou je sais qu'ils aiment beaucoup les enfants. Je sais que c'est des gens qui m'aiment beaucoup. » Donc, il y avait toujours un clin d'œil qui, pour le mouvement, qui prend n'importe quel signal là, comme étant positif, il se disait « Ok, Trump, il nous... évidemment, pour les médias, il ne peut pas le dire là, qu'il nous appuie, mais dans sa façon de le dire, avec un petit sourire en coin, c'est un message. Reste que Q, parce que c'est basé aussi sur un compte anonyme qui publie toutes sortes de messages cryptiques qui veulent tout et rien dire à la fois. Donc, c'est un peu, je compare ça aujourd'hui, il y en a qui font des jeux d'évasion, là, c'est le cas de Richard. Richard et Mario Dumont.
Mario aussi.
Et en famille et tout ça, ils en ont fait un peu partout dans le monde. Et tu sais, QAnon, c'est un peu un jeu d'évasion, grandeur nature, où analyse plein d'indices dans le but de sauver le monde. Je comprends que ça peut être excitant pour quelqu'un parce que beaucoup dans les conspirations, c'est des gens qui ont eu des difficultés financières, qui ont perdu leur emploi, qui sont exclus de certes, que ce soit au niveau familial ou professionnel.
Il y a un problème à la base.
Oui, souvent. Très souvent. Donc, des gens exclus qui, là, se retrouvent dans une communauté qui a une belle quête, là, la quête de sauver le monde. C'est excitant. T'as plein d'indices. Quand t'as des réponses tout fait, c'est pas aussi le fun qu'un paquet de messages codés. Donc, c'est excitant d'être dans QAnon. T'as l'impression soudainement d'être au-delà de tout le monde, parce que toi, t'as les réponses, tous les autres sont des cas.
T'as compris, toi.
Ben oui, t'as compris. Alors, au lieu d'être l'exclu, là, tu deviens au-dessus des, de la masse, et c'est vraiment grisant jusqu'à ce que tout s'effondre, malheureusement, parce que c'est une fumisterie. Donc, certains vont s'en rendre compte aujourd'hui, sauf que même à l'intérieur des forums aujourd'hui, QAnon, on n'est pas d'accord sur le 4 mars. On voit que le mouvement est chambranlant depuis un mois et demi. Alors, est-ce que
mais on n'a pas de données sur le nombre de membres. On n'a pas de données, là, sur dans l'Ouest, dans l'Est américain, dans le Sud, dans le Nord, au Canada, au Québec, on n'a pas de véritables données.
Non, très peu de données, surtout que ça a changé beaucoup. Des forums, par contre, il y en a des milliers, là, parce que, entre autres, Twitter et Facebook l'en supprimaient à coups de 1000 là, à un moment donné, par semaine, et ça se reconstruisait toujours. Mais là, c'est une plus petite faction. C'est dur de donner un nombre, mais c'est beaucoup moins que c'était, mais c'est des fanatiques.
Toi, le verdict là, qui a eu lieu à Toronto, là, Alex Minassian, qui a tué 10 femmes, avec son camion en avril 2018. Il en a blessé 16, dont, je disais ce matin, je pense que c'est une femme qui a été amputée des deux jambes à la hauteur des genoux. Ça, c'est les incels. Et c'est les incels, c'est les célibataires involontaires. Puis là où je veux en venir, c'est QAnon, les incels, c'est tous des regroupements malsains là, pour des gens qui sont peut-être vulnérables.
Oui, c'est un peu le même, je vais pas dire même crowd, là, mais il y a quand même des gens qui doivent être dans les deux mêmes. Des gens qui se retrouvent sur Internet et qui se radicalisent à longueur de journée. Les incels, ça fait peur aussi parce que t'as raison, il y a des. C'est encore là, c'est souvent des gestes isolés, mais des gens qui sont.
Victimes.
Victimes,
c'est persécutés.
Et c'est de la faute aux femmes s'ils ne sont pas en couple.
C'est ça.
Alors qu'ils sont souvent dénués d'intérêt pour plein de raisons et que les femmes ne sont pas obligées de.
Il n'y a aucune obligation. Des femmes.
Et ils se frustrent sur les femmes et veulent se venger. On a vu, malheureusement, ça dure depuis longtemps, mais oui, c'est un mouvement qui est surveillé aussi, mais c'est difficile encore là. Les services de renseignement sont capables d'infiltrer là, des forums sur le dark web, mais c'est quand même plus dur. Donc, il y a un travail avec les nouvelles technologies, puis le fait qu'on les bannit des réseaux sociaux normaux, ça limite l'ampleur, mais ça devient plus difficile à casser vraiment de l'intérieur.
Ouais, il y avait un documentaire réalisé par un des réalisateurs des Francs-Tireurs à l'époque, Charles Gervais, sur les incels, c'était diffusé à Télé-Québec. C'était vraiment intéressant de les entendre s'exprimer. Ils n'étaient pas confrontés dans le documentaire, mais tu les entendais s'exprimer. Tu voyais leur démarche, qu'on peut dire intellectuelle. Leur raisonnement. Puis là, tu dis vraiment, c'est dangereux. Il y a des failles. Puis quand tu deviens victime puis persécuté, là, tu deviens dangereux. Parce que tu n'as rien à perdre puis tu es contre l'ensemble de la société.
Tout à fait. Quand tu es encouragé en plus avec d'autres personnes qui pensent comme toi sur les réseaux sociaux, ben là, t'es sur une pente vraiment descendante.
De toute façon, on t'écoute tantôt.
Oui, avec, et je peux te rassurer, Joe Biden devrait être président à la fin de l'émission aussi, puis à la fin de la journée.
OK, ça, c'est rassurant. Tu prends la relève de Geneviève aussi pour l'émission?
Oui, je serai là à partir
à
de 13h.
As-tu...
On va parler, entre autres, avec Catherine Dorion, qui est de retour. C'est pas parce qu'elle était, elle avait arrêté de parler, parce qu'on on en parlait beaucoup moins. Elle était mère,
nous, son
et
petit bébé.
On sait que son bébé a eu des problème. Donc, on va parler avec elle de son ce qui s'est passé et de son, de son futur.
Parfait. On lui souhaite bonne chance. Hein. De toute façon, Vincent Dessureau, merci. Salut.
Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Vincent Desureau est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, que Dieu bénisse l'Amérique. Une revue hebdomadaire des plus récentes nouvelles provenant de nos voisins du Sud. Cube Radio.
Du Trisac. Un animateur pas comme les autres.
Cube Radio.
Stéphane Plante est avec nous, il est producteur de contenu pour Cube Music. Monsieur Plante, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Je pense que c'est fait, là. Je pense que le rock est mort.
Le rock est mort. Ben, mettons le classic rock, une certaine idée qu'on s'en faisait, peut-être, c'est peut-être chose révolue, mais je vais me permettre de...
Va falloir que Chaume ferme ses portes, là.
Oui, mais je vais me permettre de citer Simone de Beauvoir un peu tout croche. On ne naît pas classic rock, on le devient. Ah. Donc, c'est très difficile. Ouais, je suis pas sûr que c'est exactement ce qu'elle a dit, mais bon.
On paraphrase.
Oui, à peine. Parce que c'est difficile de qualifier un son de classic rock quand c'est quelque chose qui vient de sortir. On y associe pas une renommée quelconque. On n'a pas de nostalgie liée à ça. Mais depuis quelques années, on s'intéresse justement au classic rock. Et surtout, cette année, les gens, au lieu de faire des découvertes, se sont beaucoup retournés vers des valeurs sûres. En redécouvrant des classiques du rock. Donc, c'est pas mort, mais c'est dur à renouveler le genre, si on
mais,
veut.
Mais, ça, mais Stéphane, le classic rock se prolonge. L'autre jour, j'écoutais Chaume un peu, là. Puis là, je me disais, oh, tu sais, là, Pearl Jam, c'est devenu du classic rock. Tu sais, Nirvana est devenu du classic rock parce que là, il y a 25 ans entre la production de la chanson puis aujourd'hui.
Oui, ben c'est ça, c'est que ça arrive tout le temps. Il y a toujours des nouvelles chansons qui finissent par s'imposer dans le classic rock, alors que si on avait dit à Kurt Cobain qu'il faisait du classic rock, il aurait sûrement pas aimé ça. Mais c'est la réalité, parce que on pense plus peut-être à Led Zeppelin, Deep Purple, The Doors, Jimi Hendrix, même Black Sabbath, mais quand c'est sorti Black Sabbath, c'était du métal. Mais maintenant, Paranoid, on écoute ça comme une toune de classic rock. Mm-hmm. C'est très dur à définir parce que c'est vague. Mais en 2018, il y a un film qui s'appelait « What is Classic Rock? » qui posait la question « Est-ce que c'est passé? C'est révolu? » Et le gars qui a fait ça, il avait 25 ans. Parce que lui, il disait « Il y a un intérêt chez les jeunes pour le classic rock. » Et c'est pas vrai que ma génération écoute juste du techno, de l'électro, du rap ou quoi que ce soit.
Ouais.
Et il a fait... Puis même la même année, un auteur, Steve Iden, qui a sorti un livre « Twilight of the Gods, A Journey to the End of Classic Rock », un essai assez ludique, là, je veux dire, il se permet un peu de rigoler, faire des petits jugements de valeur sur des bandes, mais c'est indéfinissable. Puis pourtant, on a essayé au début, en 1980, une première station de radio de Cleveland qui s'est consacrée au classic rock. On avait cerné les années entre 1964 et 77, parce qu'on disait que quand le punk est arrivé, ils ont renié les principes du rock.
Ouais.
C'était fini le rock dans les arénas et tout ça, c'était quelque chose de plus démocratique, plus près du public. Il n'y avait pas une relation d'égo surdimensionné avec les rockstars. Mais le classic rock revendique plus le côté justement des grandioses, des effets de pyrotechnie et tout ça des années 70, quand les albums aussi étaient faits sur des grosses consoles en bois avec un nombre de pistes limitées.
Mais Stéphane, classic rock, là, c'est pas des vieilles tunes de rock, finalement. Là, ça, parce que tu parles du punk, là, les Clash, c'est devenu du classic rock.
Exactement, Blitzkrieg Bob des Ramones, même God Save the Queen des Sex Pistols, c'est devenu, j'en ai trouvé sur des playlists de classic rock, t'avais du punk comme ça, puis ça s'est imposé parce que plus de gens découvrent ça, alors que quand c'est sorti, c'était pas nécessairement des tunes pop qui jouent à la radio, mais maintenant c'est devenu quasiment des oldies, qu'on pourrait dire, mais c'est vrai, ça prend le temps. Mais c'est en 86, d'ailleurs, le magazine Billboard a décidé de consacrer l'expression classic rock, parce qu'il trouvait que ça devenait un phénomène en soi. Et c'est drôle parce que dans les années 80, justement, il y avait le métal est devenu très populaire. Puis là, t'avais Judas Priest, Twisted Sister, on considérait ça comme du métal. Van Halen, Scorpions. Mais là, maintenant, tu écoutes ça, puis c'est devenu du classic rock parce que le vieux métal a été tellement populaire dans les années 80, on a plus peur d'entendre les grosses guitares. Tu sais, ça donne du nouveau classic rock. C'est pour ça que je dis, on devient classic rock, on n'est pas spontanément.
Bon, est-ce qu'on peut en entendre un peu?
Oui, j'avais Led Zeppelin en ouverture, finalement, ça n'a pas joué, mais oui, on peut en écouter un peu, on peut entendre All Our Love de Led Zeppelin.
Oh, c'est pour moi, c'est pas du classic rock, c'est presque thérapeutique. Moi, ça me fait du bien d'entendre ça.
mais c'est ça, puis...
Comment les jeunes réagissent à ça, là? Comment les jeunes réagissent à la nouvelle... Parce que, tu sais, classic rock, c'est un terme, tu te dis, là, qui existe depuis quoi? Les années 80? Mais là, en 2000... Tu sais, en 2000... Que date de 2021?
C'est ça, l'année.
Je pense que c'est ça, la bonne année. Là, tu te dis, c'est quoi? Classic rock, c'est tout ce qui est du 20e siècle, d'abord.
Ben, c'est ça, oui. D'ailleurs, l'auteur de l'essai, Steve Hayden, lui, dit... c'est un peu sévère et précis en même temps, ce qui déclare pour lui le genre. Le classic rock a commencé avec Sgt. Pepper's des Beatles en 67 et s'est arrêté avec Nine Inch Nails, l'album de Fragile. Et je suis même étonné que cet album-là figure dans une conception quelconque de classic rock, mais je comprends. C'est un petit peu pourquoi. Mais lui, il délimite à 1999. Mais moi, quand j'écoute les White Stripes ou The Strokes, les groupes début des années 2000, c'est pratiquement devenu du classic rock. J'associe des souvenirs à ça et tout. Il y a une nostalgie. Fait que moi, je pense que c'est 20-25 ans pour que ça devienne du classic rock. T'sais, on parlait tantôt de le grunge, mais même Metallica, ça joue à chaume maintenant. Mais
20-25 ans, ça nous amène à l'an 2000. Là. C'est pas c'est drôle. C'est bizarre d'être classique en l'an 2000.
Ben oui, tout à fait. Non, mais c'est ça. Mon fils, cette semaine, il parlait d'un YouTuber vintage de 2014. Donc, c'est ça. c'est la perception aussi. Ouais. Pour moi, 2014, c'était comme il y a deux jours, mais...
Mais classic rock, là, ça devrait pas être, Stéphane, tout groupe qui monte sur scène et qui ont eu besoin d'un remplacement de hanche ou qui est sur la glucosamine ou qui a eu des problèmes de santé, il y a eu une opération à cœur ouvert. Il me semble que ça détermine l'âge des joueurs.
Ben, on associe beaucoup classic rock à la génération des baby boomers, c'est certain. Mais moi, je trouve que même avec la génération X après, ça s'est perpétué. Là. Et justement, dans le film, quand je dis que ça change, il parle de la chanson Crazy Train de Ozzy Osbourne. Quand c'est sorti, Ozzy Osbourne, c'était l'ennemi public numéro un, c'était le démon. Mais là, maintenant, la chanson joue dans à peu près toutes les parties de football aux États-Unis parce que c'est devenu une chanson populaire de classic rock. Même Michel Richard l'a reprise, la chanson à Belle et Bob. C'est juste pour dire que ça a fait du chemin. Le Crazy Train, le petit train va loin, là, parce que c'est devenu, Ozzy Osbourne, c'est devenu du classic rock.
Imagine.
Et pourtant, c'était du métal, c'était underground, comme on aimait dire, mais il remplissait ses stades aussi. Mais pour en venir à l'auteur, justement, qui délimite si précisément le classic rock, lui, il dit que c'est aussi la mort de plusieurs icônes. Ça fait en sorte que c'est la fin du classic rock, parce qu'il a commencé à écrire son livre quand David Bowie est mort, puis il l'a terminé quand Tom Petty est mort.
Ouais, hein?
Et puis, il y en a eu quelques autres. Fait que c'est sûr, une certaine idée qu'on se fait du classic rock, effectivement, mais plus t'en parles à des gens différents, on se rend compte que la perception du monde varie tellement d'une personne à l'autre. Puis, même au Québec, j'essaie de voir c'est quoi notre classic rock au Québec. Ben, c'est sûr, il y a Offenbach, Corbeau.
Pagliaro,
l'année 70, octobre. Charlebois est vu souvent comme un chanteur de variété, quasiment, mais écoute Frog Song en deux joints, c'est des tunes.
Mais Charlebois jusqu'en 1979, à peu près. Puis après ça, il est devenu bourgeois, puis il s'est mis à chanter pour les radios musicales légères.
Puis pour les démarrer aussi.
Mais pour ça, les démarrer aussi, oui. c'est vrai. Bon, conclusion?
Conclusion, c'est que le rock n'est pas mort, mais il n'est pas fort.
Le rock, ouais. Les classic rock, c'est vraiment subjectif, hein? C'est en fonction de ton âge, ta propre culture aussi. Bon, ben, on se laisse sur Charlebois à l'époque où il y avait encore quelque chose à grogner. Stéphane Plante, merci. Salut.
Donne-moi des peanuts, je m'en vais te
chanter Alouette sans fausse note. Actualité.
Alexandre Dubé.
M. Dubé, bonjour.
Donne-moi-en des pinottes, mon Benoît.
Ben, c'est tout ce que tu vas avoir, d'ailleurs. c'est comme ça qu'on va te payer, avec des pinottes. Dis donc, il y a un bilan COVID du jour. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais?
Ben, il y a plusieurs indicateurs à la hausse, là.
Come on.
Bon, on va décortiquer ça, on va prendre notre temps. 707 cas supplémentaires sur 29 151 tests quand même. 20 décès supplémentaires, ça c'est un des indicateurs qui est à la hausse. Là, on avait une tendance à la baisse depuis quelques jours, c'était encourageant, là ça remonte. 8 hospitalisations de plus, donc petit à petit les hospitalisations ont monté cette semaine, on est à 626. 5 personnes de moins au prorata aux soins intensifs pour un total de 115. On a administré 16 619 doses. Pour ce qui est des variants, c'est assez stable, 137 cas confirmés, mais il y a 1353 cas présomptifs. Et si ça se confirme, ben là, ça va faire monter quand même en flèche. Là, ils sont situés où, ces variants? Principalement à Montréal. Une quarantaine confirmée en Abitibi. Quelques cas ici et là à Laval et dans Lanaudière, là, mais c'est pratiquement anecdotique pour l'instant. Et à surveiller au cours de la journée, c'est le Conseil de la Fédération où les premiers ministres des provinces vont se rencontrer. Et qu'est-ce qui sera à l'agenda, Benoît? Les transferts en santé.
C'est pas réglé, hein?
Non, c'est pas réglé.
C'est pas réglé, c'est pas réglé, là. Il était, le fédéral est à 22%, puis à l'origine, il était censé être 50%, là, c'est en 22, puis les provinces demandent 35%.
Et les provinces commencent à taper du pied, à commencer par M. Legault.
Ah oui, hein, j'imagine. Bon, il y a des régions qui passent en zone orange. Toi, ça fait ton bonheur ou pas?
Ben, écoute, deux choses par rapport à ça. La première, on s'y attendait effectivement qu'après la relâche, il allait y avoir certains assouplissements. Maintenant, ce qui a été confirmé hier au point de presse de 17h, c'est qu'il y a plusieurs régions, là, donc Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie, le centre du Québec, l'Estrie également. Alors, on bascule en zone orange, mais quand on regarde la carte du Québec, Benoît, il y a quand même 61% de la population qui demeure en zone rouge. Parce que, bon, tout ce qui est Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides, Montérégie, il n'y a aucun changement, là. Il n'y a aucun changement. Et maintenant, le prochain mois sera une course contre la montre entre la vaccination d'une part et les variants. Et je te disais un petit peu, là, on a ces mille quelques cas en attente là, de confirmation, et ça risque de changer peut-être la donne de ce côté-là. Parallèlement à tout ça, on va redonner un petit peu d'air aux jeunes pour les sports, avec les activités parascolaires en bulle classe qui vont être à nouveau permises à compter du 15 mars. On va surveiller en fin de semaine une manifestation qui va avoir lieu à Québec dimanche hein, pour justement déconfiner davantage le monde du sport. Et le PM aussi a demandé au théâtre, aux salles de spectacle en zone rouge, à se préparer tranquillement pour une réouverture à venir. Pour ce qui est des zones oranges, ben ce sera possible de recommencer à manger au resto, mais pas de recevoir un ami à la maison, par exemple. On n'en est pas là. Et là, moi, j'avais hâte de voir parce qu'on l'avait évoqué un petit peu, hier, à savoir est-ce qu'on va rajouter une troisième couleur pour les, par exemple, la Côte-Nord, la Gaspésie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour l'instant, on garde ça orange.
Qu'est-ce que tu veux dire, une autre couleur, là, de vert ou
jaune? Non, le jaune.
Jaune banane.
Comme on a connu l'automne dernier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ce serait possible peut-être éventuellement là, de le faire.
Mais t'as vu, Alex, dans le journal aujourd'hui, là, il y a le bilan, tu sais, de la performance des pays en termes de vaccination. Israël, comme à 96%.
Oui, la
Serbie est à 22%, le Chili est à presque 20%, puis le Canada est à 5,5%. Fait que, tu sais, à un moment donné...
Au 35e rang.
Ouais, fait que faut arrêter là, de se poser des questions. Et elle est là, la solution, elle est là, la réponse.
Ouais. Et le deuxième point par rapport à ce code de couleur-là, c'est que je comprends qu'actuellement, au niveau des cas, okay, juste te présenter le bilan décortiqué d'aujourd'hui. Montréal, 319 cas, Laval, 106. OK, donc, le feu est pris là. Bon. Mais Lanaudière, 49 cas. Laurentides, 53 cas. Et Montérégie, 66. Pour la vaccination, pour Montréal, on est déjà aux 70 ans et plus. Et en périphérie, ben là, on traîne de la patte. On est encore à 80. Et on sait avec l'étalement urbain, avec le nombre de personnes qui, par exemple, habitent en banlieue, vont travailler à Montréal, je le réitère, j'ai hâte de voir la vaccination à 70 ans et plus dans le Grand Montréal.
Ouais, parce ouais, que
là, c'est le Grand Montréal qu'on garde en rouge, Benoît. C'est pas seulement l'île, c'est le Grand Montréal.
Mm-hmm. T'as raison. Puis là, la vaccination est sur l'île de Montréal, mais on comprend pas la rive nord et la rive sud.
Ben, mis à part Laval, mais pour le reste, on n'est pas inclus pour l'instant.
T'aboutes. Vraiment, je t'aboute. Le délai entre les deux doses de vaccin Pfizer et Moderna prolongé, ça, c'est pas une bonne nouvelle.
Bien, il y a différentes façons de voir ça. On va allonger à 4 mois le délai entre la première et la deuxième dose. Et depuis le début de cette opération-là, souviens-toi que le Québec avait choisi de repousser la seconde dose jusqu'à 3 mois plus tard pour vacciner le plus grand nombre de patients possible pour avoir au moins une certaine immunité, d'être protégé à un certain pourcentage. Là, Québec faisait un peu cavalier seul, mais lorsqu'on s'aperçoit que les semaines passent, ben finalement, le Québec, semble-t-il, avait raison. Ce mois de plus ne devrait pas trop affecter, si tu veux, l'efficacité du vaccin, pense le gouvernement.
Mais ça, c'est par dépit, Alexandre. C'est parce qu'on n'a pas d'autres, là. On n'a pas assez pour vacciner comme du monde.
Oui, bien, effectivement qu'on est très limité dans la quantité de vaccins, là, ça commence à rentrer. C'est moins un problème que ça l'était quand on se parlait il y a peut-être 3 semaines, mais quand même. T'sais, aimes-tu mieux être protégé à, je sais pas moi, 80%
ou
zéro?
Ben oui.
C'est sûr que je pense que c'est ce calcul-là qu'on est en train de faire. Ouais, et ce délai-là dans l'administration de la deuxième dose, ben ça va permettre de vacciner une première fois 250 000 personnes de plus. Ça va permettre aussi d'accélérer la vaccination des personnes âgées de 70 ans et plus, comme je le mentionnais tantôt, peut-être pour le Grand Montréal. Mm-hmm. On va pouvoir débuter plus rapidement celle des 60 ans et plus, parce que c'est pas rare non plus que, par exemple, un couple a 72 et l'autre peut avoir 67, 68, mais ils vivent sous le même toit.
Ben oui.
On va contacter rapidement les gens qui ont déjà un rendez-vous pour recevoir leur deuxième dose aussi pour leur donner une date. Mais vraiment, effectivement, Québec, de ce côté-là, avait fait le bon pari.
Bon, et la pandémie presque stoppée dans les CHSLD, ce qui est une bonne nouvelle.
Oui, c'est encourageant dans les circonstances, c'est clair, parce que la campagne de vaccination qui est en branle depuis la mi-décembre, c'est vraiment relié à tout ça. Il y a quelques nouveaux cas seulement qui ont été enregistrés au cours des derniers jours là, dans les CHSLD, un seul hier, et ça coïncide aussi avec une baisse générale de la COVID au Québec, quoiqu'on est sur un plateau quand même, là, mais une baisse dans ces établissements. Le premier cas dans les CHSLD, ça avait été signalé le 18 mars l'année passée, et depuis, 5 300 personnes sont décédées dans les CHSLD. C'est plus de la moitié des 10 400 décès de la COVID un petit peu partout. On avait montré du doigt le manque de personnel. On a revu dans différents reportages, notamment sur les ondes de LCN cette semaine, les histoires d'horreur qui se sont multipliées dans les établissements, à la résidence Aaron, entre autres, dans la région de Montréal, à Dorval, où il y a des résidents qui sont morts après avoir été privés d'eau, privés de nourriture, laissés à eux-mêmes. T'sais, j'entendais encore des témoignages de famille, puis ça me faisait lever le poil ses bras.
Ouais.
J'en revenais pas. J'ai énormément de compassion pour ces familles-là qui ont vécu ça. Et pour les personnes âgées aussi qui sont décédées dans des circonstances horribles, et même si, effectivement, il y a peut-être encore des personnes âgées qui contractent quand même la maladie, ben, la vaccination atténue vraiment beaucoup ces symptômes-là, ça diminue le risque de décès également. On voit tranquillement cette fameuse lumière au bout du tunnel qu'on espère depuis longtemps.
Ce qui est une bonne nouvelle aussi, parce que ce que tu as dit, c'est primordial, mais c'est aussi le personnel, c'est les infirmières, les préposés aux bénéficiaires qui risquent moins leur vie pour faire leur métier. C'est pas rien, là.
Absolument, ils sont en première ligne, puis on les a envoyés en première ligne, à un moment donné, sans trop l'équipement, là, avec un tire-poids, là. Souviens-toi qu'à un moment donné, on était dans une situation de pénurie d'équipement.
Mm-hmm.
Et on les a envoyés au front.
Ouais.
Et il y a des gens qui ont payé de leur vie.
Ouais.
Y a des préposés aux bénéficiaires, notamment, qui ont payé de leur vie.
Absolument. Alex, avant qu'on se quitte, hier, moi, j'étais vraiment fier de notre premier ministre qui a pris la parole avant le point de presse ou pendant le point de presse sur la COVID, mais qui a interpellé les hommes au Québec.
Ah, vraiment, c'était au début, c'est la première chose que le premier ministre a dit hier, et ça allait dans le même sens également que ton commentaire hier, hein, qui était très, très, très à propos, en disant, tu sais, hey, les gars, réveillez-vous, là, les gens autour de vous également, et M. Legault a lancé ce message-là en matière de violence conjugale, parce qu'on sait, ça a été un mois épouvantable,
ouais.
Où il y a 5 femmes qui ont été assassinées à la suite d'histoires de violences conjugales de toutes sortes.
Ouais. Écoute, et Alex, hier, on va l'écouter, le premier ministre Legault, là, oui.
Allons-y.
J'ai le goût de parler aux hommes, d'homme à homme. Il n'y a rien de masculin, il n'y a rien de viril à être violent avec une femme. Au contraire, moi, je trouve ça lâche. Il est temps que les hommes, on se mette ensemble, puis qu'on se dise, on va parler à nos garçons, on va parler à nos chums, mais ça n'a pas de bon sens. Qu'en 2021, on vive comme des barbares. On est dans une société civilisée. Puis toutes les femmes, puis tous nos enfants ont le droit à un milieu sécur.
Mmh. Ça, c'était le premier ministre hier, Alex.
Oui, et il avait entièrement raison. C'est vrai que ce sont des gestes d'une lâcheté incroyable à la suite, entre autres, de ce drame de Sainte-Sophie où une mère et sa fille qui ont été assassinées à coups de hache. Benoît, je veux dire, je veux pas être macabre, là, mais je pense que ça démontre à quel point
la violence, du geste là, qui est ahurissante.
C'est épouvantable. Et on parle beaucoup de financement. En mars 2020, le gouvernement Legault, lui, s'est engagé à verser 120 millions d'ici 5 ans au réseau des maisons d'hébergement c'était pour femmes
assez.
Victimes de violences,
dont
24 millions à court terme. Mais selon Québec solidaire, ces sommes tardent aussi à être dépensées.
Oui, puis c'était pas assez. C'était comme le quart de ce que demandaient les maisons des regroupements de maisons pour les femmes qui vivent la violence conjugale. Là, j'espère que cette prise de position-là du premier ministre Legault il y aura un suivi à ça, là, que c'est pas juste ponctuel, là, mais qu'il y a une politique qui suive, qu'il y a des actions qui suivent.
Oui, et puis il faut se parler entre gars, puis il faut être vigilant aussi de notre entourage. Soyons aux aguets, puis n'ayons pas peur, effectivement, de prendre la parole.
Oui, puis de demander de l'aide si ça va pas. T'sais, c'est aussi un problème de santé mentale, souvent, là, qui peut être temporaire suite à une séparation, ce qu'on voit souvent comme situation. Alexandre Dubé, merci. On se reparle demain.
Salut, Benoît, à demain.
Merci.
Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Alexandre Dubé est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado, Alexandre Dubé. Des entrevues de fond avec les acteurs de l'actualité. Cube Radio. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1-877-827-2346.
Caroline Saint-Hilaire et Antoine Robitaille sont avec nous pour parler de politique. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, monsieur Robitaille, des nouvelles de Mme Dorion dont on s'inquiétait?
Ben oui, excellente entrevue de Geneviève Lajoie du Journal de Québec. Donc, Catherine Dorion, elle a recommencé à travailler lundi, le 1er mars, mais elle n'a pas donné d'entrevue comme telle un peu partout, sauf à Geneviève. Puis elle a expliqué qu'elle reprend son boulot de députée. Mais après des moments angoissants, là, parce que son troisième enfant est né avec une malformation cardiaque, a dû être opéré à cœur ouvert. Donc, moment très angoissant. Mm-hmm. Elle explique tout ça. Elle sent de la pression pour revenir plus rapidement à l'Assemblée nationale. Évidemment, moi, j'avais posé des questions. Je savais pas ce qui se passait. Et je me doutais qu'il y avait quelque chose qui se passait parce qu'habituellement, les députés reviennent beaucoup plus rapidement. En même temps, Catherine Dorion fait remarquer qu'elle a pris un an pour son premier enfant, 9 mois pour le deuxième, puis là, la troisième qui est affectée donc de ce problème cardiaque, ou en tout cas qui a eu cette opération importante. Elle va devoir juste prendre 6 mois. On sait que les députés québécois n'ont pas accès au régime québécois d'assurance parentale, comme le souligne Geneviève dans son texte. Mais Le sujet est souvent discuté, même que ça fait partie du plan de réforme que Simon Jolin Barrette a déposé, là, la réforme parlementaire, l'instauration d'un congé parental pour les parlementaires. Bon, mais c'est pas encore réalisé, évidemment, cette réforme-là. En même temps, il y a toujours le danger, je dirais, ou l'exigence d'assiduité qui est dans le Code d'éthique et de déontologie à l'article 6. Là, un député fait preuve de rigueur et d'assiduité. On se souvient que Tony Tomassi avait été blâmé. Il y a eu quelques tapes sur les doigts parce qu'il était...
À peine.
Oui, c'est ça. Tu te souviens de Jacques Saint-Laurent, premier le commissaire à l'éthique.
Ah oui, le redoutable.
Ils ont accouché de quoi?
De quoi? De pas grand-chose.
Je faisais un parallèle avec...
Ouais, non, mais est-ce que la politique est sexiste au Québec, Caroline?
Oh, je savais que c'était à moi que tu allais lancer ça.
Bien, certain.
Est-ce que la politique est sexiste? En tout cas, nos institutions parlementaires, que ce soit à Québec, Ottawa, ou même au niveau municipal, c'est pas facile encore pour les femmes. Et le témoignage de Catherine Dorion est assurément un beau reflet. Puis je comprends totalement ce qu'elle a dû et ce qu'elle ressent, parce que c'est impossible pour une parlementaire de partir, même si moi, elle était bonne de faire ça, parce qu'elle a dû avoir de la pression de son entourage politique, des citoyens. Puis on avait eu la conversation à un moment donné, parce que vous vous souvenez, les messieurs, on parlait du tramway, puis on disait, mon Dieu, est où Catherine Dorion?
Est où?
Et c'est ça, exactement. Et on avait dit, ben peut-être qu'effectivement, il se passe quelque chose. Ben oui, il se passait quelque chose. Mais c'est pas facile. Est-ce que c'est sexiste? En tout cas, c'est certainement pas adapté aux réalités d'avoir des jeunes femmes en politique et même des jeunes hommes, parce que peut-être qu'une femme aurait pu avoir envie de retourner rapidement, mais peut-être qu'un parlementaire pourrait dire...
Au fédéral, il y a un pauvre député qui avait un problème, je pense, de bipolarité, en tout cas un problème de santé mentale,
député du Bloc.
Là, puis c'est la même chose. Là, parce que, comme me disent souvent des députés à qui je parle, on n'a pas un emploi, on a une position. Et quand on a une position, ça vient avec certaines pressions un peu anormales.
C'est drôle. Hier, une jeune femme me disait ça, de 27 ans, qui était impliquée en politique, qui me disait la question qui revient le plus souvent chez les femmes quand il y a des conversations de politique, c'est est-ce que c'est possible d'avoir une famille? Est-ce que c'est possible d'avoir une vie de couple, une vie de famille quand tu fais de la politique?
Oh, tellement.
Mais je trouve la question est vraiment pertinente.
Oui, mais fatigante, parce qu'on ne pose pas cette question-là aux messieurs.
C'est clair. Écoute, d'où ma question à l'origine, Caroline.
Oui, oui, mais j'étais enceinte au DAP, puis tout le monde me disait qui va s'occuper de cet enfant-là. Ben, écoute, on le fait à deux, fait qu'après, on va s'en occuper à deux.
Ouais.
Mais effectivement, puis la question de la conciliation travail-famille, je veux dire, on ne pose pas ça aux messieurs, on la pose toujours aux femmes.
C'est clair.
Ça vient ajouter, oui, de la charge, mais bon,
ben, il y a des bouts qu'on ne peut pas faire comme l'allaitement. Madame Dorion a dit qu'elle a fait une montée de lait sur le tramway. Elle dit, d'ailleurs, j'y retourne. Je retourne à ça, le lait. Faut que j'allaite mon bébé. Mais non, il y a des bouts comme ça qu'on peut pas faire. Il y a encore une différence.
Catherine Dorion sera avec Vincent Deschereau, son verre.
Absolument.
C'est ça, tantôt.
À 15h.
Bon, à 15h, OK. Et plaidoyer de Legault contre la violence envers les femmes.
Ben oui. Je sais que tu en as beaucoup déjà parlé à l'émission, tu viens d'en parler longuement, mais moi je trouve que c'est un beau coup de sang du premier ministre.
Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui suive.
En même temps, il y avait des échos avec ce que tu disais, puisque que tu réclamais depuis quelques jours. Donc c'est pour ça que je voulais en reparler. J'étais curieux de savoir ce que tu en as pensé, mais là je vois que tu en as beaucoup parlé.
Non, mais il faut qu'il y ait un suivi, Caroline, là-dessus. Là, tu sais, on peut sortir, on peut déplorer puis dénoncer, mais il faut que lundi prochain, moi je trouve qu'il y a des hommes au Québec qui doivent se prononcer, des hommes qui ont une influence sur les autres hommes.
Ben oui, tout à fait. Puis on était tous contents d'entendre François Legault hier, mais effectivement, il ne faut pas qu'on referme le livre puis on rentre à la maison jusqu'au prochain meurtre. Il faudrait déjà qu'il y ait des gens qui s'organisent. Est-ce que ça doit venir des élus? Est-ce que ça doit venir de la société civile? Tu sais, des fois, c'est plus facile quand c'est un parlementaire qui lance quelque chose. Ou à la limite, est-ce que ça pourrait pas être les quatre partis politiques qui disent, regarde, on s'unit, nous, quatre parlementaires, quatre messieurs, ou je ne sais pas, peu pas, et lançons cette grande vague d'amour.
Moi, des trucs transpartisans, j'adore ça.
Des sportifs aussi, là, des hommes.
Tout le monde.
Puis qu'on prenne la parole.
Un gros show de testostérone pour parler au monsieur.
Ben oui, oui, parce que ça existe, la testostérone, puis...
Mais vous irez voir le petit gazouillis de M. Legault suite à sa déclaration, justement, les commentaires. Le monde va pas bien, messieurs, là, parce que c'est épeurant, hein, les commentaires que François Legault reçoit par rapport à cette déclaration-là. Franchement, ça fait...
Quel genre?
C'est de la faute à François Legault si ça arrive, tout ça, parce qu'on est confiné, puis c'est un dictateur, puis... Non, c'est épeurant, messieurs, je vous dis, on part de loin.
C'est incroyable. Content
d'être pas sur Twitter, hein?
Ah non, regarde, je suis tellement soulagé. Mais ces hommes-là là, qui écrivent ça, c'est des hommes en liberté, là. C'est des hommes qui ont le droit de voter.
Je sais pas si c'est des hommes, parce que souvent, c'est des têtes d'œufs que je vois, là. Je sais pas si c'est un homme, une femme, ou un peu.
Des têtes d'œufs, hein? Je pense que ça résume bien la situation, des têtes d'œufs. le ministre de la Défense, Caroline, qui avait été prévenu des allégations d'harcèlement sexuel à l'endroit de Jonathan Vance.
Ben oui, écoute, on a su ça hier en comité à Ottawa de la Défense nationale. C'est quand même une petite bombette, disons ça comme ça, parce que le Parlement ne siège pas. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point l'opposition va prendre cette balle-là au bon. Mais oui, le ministre Sajjan, le ministre de la Défense nationale, aurait été prévenu par l'ancien ombudsman militaire Gary Walburn, qui a fait une déclaration hier en comité en disant qu'il avait voulu prévenir le ministre il y a 3 ans, qu'il y aurait des allégations à l'endroit de Jonathan Vance, qui est le grand boss des forces armées, qui a été tassé depuis, mais quand même, et semble-t-il que le ministre ne voulait même pas entendre les preuves, ne voulait même pas voir les preuves, alors qu'il avait dit, quand il a comparu en comité au mois de février, que c'était faux, qu'en fait, jamais, il a dit en comité qu'il avait appris en même temps que tout le monde, en regardant les nouvelles, qu'il y avait des allégations. Alors, qui dit vrai, qui dit faux, deux versions. M. Trudeau a réitéré sa confiance au ministre Sajjan.
Sajjan qui ne parle pas français, donc tous les médias québécois n'ont pas accès à ce ministre-là. Des fois, il faut le souligner.
Hein. Ben, tout à fait, mais bon, c'est comme
parce
ça.
Moi, j'aurais aimé ça l'avoir en entrevue, parce que je me trompe-tu ou c'est Art MacDonald qui l'a remplacé, Jonathan Vance, puis il y a aussi des allégations contre lui.
Puis lui aussi a été tassé, fait que c'est ça, changez de côté, vous êtes trompé.
Ben oui.
Mais c'est la culture comme ça aux forces armées.
Écoute, c'est tout des poignées de cul, c'est quoi, là? Mais c'est quoi la culture militaire, là? C'est, femme rentrer dans un militaire, tu dis, hey, moi, il pognait le cul, m'a l'écœuré jusqu'à temps que. Non, mais, et puis là, le ministre, lui, il répond de rien. Lui, il est là, la bouche ouverte, là, dans les médias, puis il dit,
Puis écoute, moi, ça me fait peur parce que j'étais députée fédérale, puis j'avais eu la conversation avec Mario Dumont il y a quelque temps. Écoute, il y a 25 ans, ça nous rajeunit pas, là. Et je posais des questions du haut de mes 28 ans. Je posais des questions au Parlement à Ottawa sur des allégations de viol, de culture du viol dans les forces armées, puis tout le monde me disait « Tolérance zéro, c'est terminé! »
Ouais.
Ça fait 25
ans. Il faudrait aller chercher ces extraits-là.
Ouais.
J'aime ça, les extraits historiques.
On a fait des entrevues.
Historique, Antoine Robitaille.
Historique, 25 ans. Classic rock.
Tu veux-tu me sacrifier patrimoine?
Ouais.
Non, patrimoine immatériel.
Mais le nombre de femmes qui sont sorties, là, qui ont pris la parole, qui ont dénoncé le harcèlement, les agressions sexuelles dans l'armée, les forces armées canadiennes. Et c'est vrai qu'on promettait des réformes. Puis on se rend compte.
Tu te souviens qu'Alec Castonguay, notre collègue, avait fait tout un bouquin avec son enquête.
Avec Noémie Mercier.
Avec Noémie Mercier, oui.
Puis il avait fait un bon travail.
Puis ça change, puis c'est pareil.
Bon, et les conservateurs, là, qui échappent plus le ballon, ils courent même pas sur le terrain.
Ben non, où est Charlie? Où est Richard Martel? Où est le lieutenant du Québec? J'écoute, je trouve, tu vas me dire que c'est la relâche, peut-être que les parlementaires sont en relâche, mais au-delà de ça, ça fait longtemps, il est pas là, il est pas nulle part. Et là, cette semaine, on apprend que les conservateurs, en fait, ont voté contre le rapport d'impôt unique, et là, écoute, ils se mélangent dans ces explications justifiant le fait qu'il n'a pas voulu accepter le projet de loi du Bloc québécois pour que le Québec ait son rapport d'impôt unique. Tout d'un coup, les conservateurs sont très sensibles au fait qu'il faut sauver des emplois. Or, le NPD, au départ était contre, finalement, ont approuvé ce projet de loi-là.
Puis dans le projet de loi de Gabrielle Sainte-Marie, il y a des éléments pour conserver les emplois.
Exactement.
Non, mais attendez,
exactement.
Vous me faites rire, vous autres. Pensez-vous que la fonction publique, que ce soit fédérale ou provinciale, tu perds des emplois? T'es transféré, tu passes d'une tablette à une autre, il n'y a personne qui perd d'emploi dans la fonction publique. Jamais, ever, fucking ever. Fait qu'arrêtez-moi avec cet argument-là.
Non, mais je ne fais que rapporter les propos.
Non, non, mais je voyais que la NPD qui braillait sur ça. Puis là, c'est les conservateurs qui répètent les mêmes sottises.
Il y a tout l'aspect aussi. Ben, j'ai interviewé Gabriel Sainte-Marie pour La Haut sur la colline hier, là, puis il y a tout l'aspect de la lutte aux paradis fiscaux aussi. Et parce qu'on dit si le Québec a un accès plus direct à la perception, à la captation des impôts, il va peut-être avoir plus tendance à combattre l'évasion fiscale. C'est intéressant,
monsieur,
ça.
Ben,
puis ça dérangeait les conservateurs parce qu'ils disaient « Oh là, le Québec, ça prend pour un pays ».
C'est ça qui n'aimait pas les conservateurs. Alors, bravo pour l'autonomie et la reconnaissance, la spécificité du Québec. Ouais. Bravo les conservateurs, les Champenois.
Non, mais j'aime ça, cette chronique-là, mine de rien. Là, c'est parce que, rappelez-vous les promesses de Justin Trudeau en 2015-2016 face aux paradis fiscaux?
On va continuer.
Ben, c'était pas la même. C'était pas la même que la réforme sur le mode scrutin. C'était pas dans la même liste.
c'est dans
les arbres. Les arbres. J'attends mon arbre.
Les 2 milliards d'arbres, c'est dans les mêmes.
Qu'est-ce
même
qu'il avait dit Trudeau en 2015? Je me souviens.
Non, mais on parlait des paradis fiscaux, puis il disait qu'il allait avoir un effort de l'Agence du revenu du Canada à identifier. Puis là, il avait identifié un nombre X de Québécois, puis un nombre X de Canadiens qui avaient de l'argent dans des paradis fiscaux, et on était censé aller chercher tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé depuis? Zéro, puis une part. Fait qu'il n'y a rien. Parlez-en à Marois Risky, elle va vous en péter une en direct. Et ça sera pas long. Fait que, bref, écoute, avez-vous autre chose à ajouter?
Ben, ça va être correct.
C'est beau pour aujourd'hui?
Ben, moi, j'ai juste une affaire, c'est au revoir.
Ah, parfait. Merci. Antoine, Caroline, à demain.
À demain.
Du Trisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Du Trisac.
Loïc Tassé est avec nous pour parler de politique étrangère et américaine. Loïc, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Hey, je sais pas toi, là, mais moi, j'irais dîner au restaurant. Là, il me semble, là, ça vient de me prendre. Là, je vois les régions en orange. Puis là, je me dis, après l'émission, là, à 1 heure, là, il me semble que je serais allé au resto. Je sais pas, un petit poulet portugais ou quelque chose avec un petit verre de vin rouge, là, quelque chose qui fait du bien.
Ah, j'en connais un excellent à part, ça.
Lequel?
Le poulet portugais, tu m'en reparleras.
Ben, où? Dis-le.
Ah, mais attends, il est sur Saint-Hubert, près de Rosemont. Comment il s'appelle déjà? C'est un excellent portugais. Tous les chauffeurs de taxi portugais vont là, par exemple. Donc, c'est déjà une référence.
Tu te trompes pas.
Puis tu vois, son nom m'échappe.
Tu me le diras demain. Il me semble que... Je sais pas, ça vient de me prendre. Bon, on va parler de politique. La Chambre des représentants, Loïc, qui vote une loi nationale pour contrer les lois républicaines qui restreignent le vote dans certains États.
Oui, ben il y a de plus en plus de problèmes parce que les républicains ont gagné une majorité de votes aux dernières élections dans beaucoup d'États. Et évidemment, ils se sont rendus compte que, tiens donc, je sais pas si tu en es rendu compte, mais c'est les démocrates qui ont gagné la présidence et les démocrates ont quand même fait des progrès. Alors, ils ont décidé de restreindre encore davantage le vote, de rendre ça plus difficile, en particulier pour les minorités. Donc, plus de présentation de pièces d'identité, plus de gerrymandering, tu sais, ce découpage savant qu'on fait des circonscriptions électorales pour gagner plus de circonscriptions, plus d'argent opaque qui rentre dans les élections. Bref, toutes sortes de pratiques qui sont extrêmement déloyales. Et les démocrates ont dit ça suffit. Nous, on va faire une loi nationale, on va réformer la loi nationale sur les élections. La dernière mouture date de 1960, quelque chose comme ça. On va faire une nouvelle loi. Ça vient de passer à la Chambre des représentants par 220 contre 210. Alors, plus de gerrymandering. Les fonds électoraux doivent être transparents. On n'a plus le droit d'exclure des gens des listes électorales si facilement. Plus que ça, on va inscrire automatiquement des gens sur les listes électorales. fédéral, on va cesser de faire des demandes exagérées d'identification des électeurs. Les gens qui ont été condamnés n'avaient pas le droit de vote, n'ont pas le droit de vote dans plusieurs États. Ça suffit. Si vous avez purgé votre peine, vous êtes redevenu un citoyen normal, vous avez le droit de voter, etc. Sauf que les Républicains sont pas contents. Ils veulent pas ça du tout. Et ça doit passer au Sénat. Pas à 50% plus 1. Ça doit passer à 60% des votes au Sénat.
Ah oui.
Donc, il leur manque 10 votes républicains.
Mais ça c'est en Russie?
Oh, c'est aux États-Unis. Et tu sais, tu fais bien de le mentionner parce que c'est ça le problème. C'est que ça arrive dans des démocraties, c'est que on paralyse nos élus. Nos élus qui devraient prendre des décisions sont paralysés par des chartes, sont paralysés par des sociétés d'État, sont paralysés par des traités internationaux. Et ça, c'est très insidieux. Ça se fait toujours pour les meilleures causes. Mais à un moment donné, à la fin, on se rend compte que les gens qu'on a élus peuvent plus décider de rien. Alors, ça met les électeurs de mauvaise humeur, ça met tout le monde de mauvaise humeur et ça discrédite la démocratie. Mais c'est ça à quoi tu te retrouves en face de quoi on se retrouve aux États-Unis. En ce moment, il y a un problème, c'est que les élus ont beaucoup de difficultés à décider. Déjà qu'ils ont un Sénat qui est très puissant, mais si en plus il faut qu'au Sénat les lois passent par 60% des voix, ben c'est sûr que tu t'empêches de... Ça te prend à ce moment-là énormément de négociations.
Mais les changements, par contre, les restrictions là, à aller voter ne demandent pas 60% des voix.
Non, mais c'est parce que c'est un immense... Ils ont fait un immense projet de loi. C'est un projet de loi qui a 700... il fait 710 pages, je pense. Alors oui, ça demande ça parce que c'est très gros. Et donc, il y a plus de choses. Alors, mais c'est sûr que s'ils le prenaient pièce par pièce, il y a un certain nombre de choses qui pourraient peut-être passer plus facilement. Mais c'est vraiment un très, très gros projet de loi. Et c'est pour ça que ça se fait comme ça.
Bon, parlons de la Chine.
Oui, c'est aujourd'hui l'ouverture de quelque chose qui est très important en Chine. C'est deux grandes conférences, deux grandes assemblées. Il y a 5000 personnes qui se déplacent de toute la Chine vers Pékin. Il y a d'abord l'Assemblée nationale populaire qui va ouvrir sa 4e session de son 13e congrès, pardon. Donc, en fait, c'est l'Assemblée nationale qui se réunit une fois par année pendant quelques jours. Et il y a aussi l'Assemblée consultative du peuple chinois qui se réunit. Mais comme le nom le dit très bien, c'est consultatif, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, les deux servent à rien. Les deux sont là simplement pour officialiser ce que les hauts dirigeants du Parti communiste chinois ont décidé. C'est du grand théâtre pour donner un peu l'illusion, n'est-ce pas, que le Parti communiste chinois tient compte de l'opinion de tout le monde. Pas du tout ça qui se passe, c'est tout décidé, et on apprend un certain nombre de choses. C'est pour ça que c'est quand même important, parce qu'on apprend un certain nombre de décisions, et puis les gens se réunissent dans les couloirs, ils discutent entre eux, et il y a quand même un certain brassage d'idées qui peut se faire, quoique Xi Jinping surveille tellement sa population que même dans les couloirs, on n'ose plus parler, les députés n'osent plus rien dire, même les gens à l'intérieur du Parti communiste chinois sont terrorisés en ce moment par Xi Jinping. Mais bon, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont sorties de là. Comme je te dis, il y a le porte-parole de l'Assemblée consultative qui a fait un grand discours. Alors, c'était intéressant de voir ce qu'il y avait à dire. Il a dénoncé d'abord, et ça montre des préoccupations de Pékin, il a dénoncé des politiciens étrangers qui veulent initier un boycott contre les Jeux olympiques de Pékin. Première déclaration en disant, qu'est-ce que c'est que ça? Mettre de la politique dans les Jeux olympiques? Mais ça ne se fait pas, c'est incroyable. Alors bon, il est parti là-dessus. C'est assez amusant qu'il fasse ça justement lui-même, qui est dans une assemblée politique, qui est un représentant politique, mais bon. C'était là-dessus la première chose qu'il y a, mais ça inquiète beaucoup Pékin, donc le boycottage des Jeux olympiques. Deuxièmement, il dénonce aussi ceux qui disent que la Chine utilise ses vaccins pour servir ses propres intérêts. Là, tu mets la main sur le cœur, mais tu n'as jamais de la vie. Et il plaide pour qu'un gouvernement de patriotes à Hong Kong. Alors, plus une démocratie à Hong Kong, maintenant, on va avoir des patriotes. Ça, c'est un terme, n'est-ce pas, codé pour dire on va avoir des gens qui sont dirigés par le Parti communiste chinois qui vont être à la tête de Hong Kong. Alors, ils foncent dans cette direction-là. Donc, c'est intéressant de voir ce qui va se passer aussi parce que il y a un nouveau plan quinquennal, donc un plan de 5 ans, qui va être vraiment déposé entre 2021 et 2025. On va avoir plus de détails sur les plans économiques de la Chine dans les 15 prochaines donné, eux, ils planifient à long terme. Probablement qu'on s'en va vers une autosuffisance de la Chine renforcée, mais ce qu'on sait, c'est qu'on va demander une importance accrue des investissements massifs en sciences et technologies. Ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau. Et il va y avoir aussi, on va chercher à atteindre en 2060 la neutralité en carbone, ce qui est un peu tard, n'est-ce pas? Et on apprend une bonne nouvelle, peut-être que les délibérations vont être un peu plus ouvertes, un peu moins opaques qu'auparavant. On va discuter de ça aussi. Donc c'est ça à quoi il faut s'attendre. On va y revenir quand même à ces réunions-là, parce que c'est quand même la première puissance économique au monde en termes de parité de pouvoir d'achat.
Neutralité de carbone en 2060.
Ah, c'est loin.
On va-tu être morts, nous autres?
Ben, je
on sera pas fort. Mais non, dans 40 ans, on va dire.
Écoute,
à 99 ans.
Des progrès merveilleux. Et peut-être qu'effectivement, on se bercera sur le perron puis qu'on regardera ça passer. Ou non, peut-être qu'on fera du vélo, qu'on sera encore très en forme. Soyons positifs.
Soyons positifs. Bon, du côté de l'Irlande du Nord, Loïc.
Ça va mal. Parce que en Irlande du Nord, on se souvient qu'il y avait eu une espèce de il y avait eu une espèce d'accord qui avait été conclu en 1998 entre le Royaume-Uni, les Irlandais du Nord et les Irlandais en général, des accords de paix. On s'entendait pour qu'il n'y ait plus de terrorisme, pour que les groupes paramilitaires cessent de poser des bombes et de poser toutes sortes d'actions terroristes. C'était grâce à l'entrée, entre autres, de l'Irlande dans l'Union européenne. Alors, que se passe-t-il? Ben, il se passe que les groupes paramilitaires viennent de se retirer de l'accord de paix de 1998.
Oups.
Ouais. Pour protester contre l'instauration d'une frontière entre les deux Irlandes. Évidemment, ça découle du Brexit. Et pour faire pression sur Londres, Bruxelles et Dublin. Ce qu'ils veulent, d'abord, c'est une prolongation de la période de grâce qu'ils avaient jusqu'au 1er octobre pour le commerce, c'est-à-dire que le commerce de l'Union européenne puisse transiter librement à travers l'Irlande du Nord vers le Royaume-Uni et vers le reste de l'Irlande. Pas sûr que ça se produise. Et ils voudraient aussi un assouplissement de toutes les règles commerciales, parce que il y a des magasins, des supermarchés en Irlande du Nord qui commencent à manquer de produits, parce que surtout les entreprises d'Irlande du Nord ne peuvent pas vendre leurs produits vers le Royaume-Uni aussi facilement qu'elles pouvaient le faire. Bref, il y a toutes sortes de problèmes, et l'Union européenne ne va pas reculer devant ça, ni le Royaume-Uni. Il y a des problèmes de traité très très graves. On ne veut pas que l'Irlande du Nord devienne une espèce de porte d'entrée pour les produits de l'Union européenne, ou vice versa, qu'elle soit une porte d'exportation sans tarif vers l'Europe. Donc, je suis pas sûr, moi, que ça fonctionne. Et ça pose, encore une fois, vraiment tout un problème. C'est à suivre. On espère qu'ils vont rester calmes, et qu'on trouvera des façons de peut-être d'assouplir le commerce, mais... C'est des gens qui deviennent rapidement violents en Irlande du Nord.
Oui, il y a un historique de chicane.
Oui, il y a un historique, effectivement.
Bon, des policiers birmans demandent refuge en Inde.
Oui, oui. Puis tu sais ce qui se passe en Birmanie.
Ouais.
On sait qu'il y a la junte qui a pris le pouvoir. On sait qu'il y a des manifestations dans les rues. D'ailleurs, ça va très très mal. Il y a eu, au total, on sait qu'il y a eu 54 morts au moins, 1700 personnes arrêtées, au moins 29 journalistes arrêtés aussi, parce que la police essaie de démanteler les manifestations qu'il y a un peu partout dans les villes. Mais on vient d'apprendre qu'il y a 19 policiers au moins qui ont traversé la frontière pour se rendre en Inde et qui demandent finalement asile en Inde. Et le gouvernement indien s'attend à ce qu'il y ait d'autres réfugiés qui arrivent, d'autres policiers qui arrivent. Ça indique que les policiers sont très mal à l'aise d'obéir aux ordres, de démantèlement des manifestants, sont très mal à l'aise de tirer, évidemment, sur les manifestants, sont plutôt du côté de la population. C'est ça que ça démontre aussi, c'est pour ça que c'est une nouvelle importante. Donc, on va voir ce qui va arriver avec ça. Pour le moment, l'Europe a suspendu ses projets d'aide. Le gouvernement a dit aux représentants européens, bon, vous savez, on a l'habitude de travailler avec un très petit nombre de pays amis, et puis, c'est pas la première fois qu'on passe à travers ce genre de boycott, donc vous pouvez toujours aller vous habiller, mais ça va très mal dans le pays. C'est pas sûr que cette fois-ci les militaires parviennent à mater les manifestations à travers le pays.
Ouais, surtout si tu refuses de tirer sur la population, le pouvoir, il doit pas aimer ça, là. T'sais.
Non, non, il n'aime pas du tout ça. Mmh. Et ça signifie que il y a probablement des divisions à l'intérieur même de l'armée aussi. Puis ça peut tenir seulement un temps, là, parce que si les manifestants arrivent à tenir assez longtemps contre la population, et si ces divisions-là arrivent à se produire vraiment dans l'armée et qu'une partie de l'armée se retourne contre une autre partie de l'armée, ce qui est terrible, mais on rentre en guerre civile à ce moment-là. Et donc, le régime des militaires en a plus pour très longtemps. Là. Ces jours sont vraiment comptés si c'est vraiment ça qui se produit.
Oui, et avant qu'on se quitte, Loïc, Kwanan, aujourd'hui, Vincent Deschureau me disait c'est la journée pour les inviter à souper parce qu'ils vont se rendre compte que toute la propagande est fausse.
Oui, parce que ils pensaient qu'il y aurait aujourd'hui un grand retour, que quelqu'un reviendrait. Devine qui? Est-ce que tu peux penser?
Le Père Noël?
Leur Père Noël à eux, leur Dark Vader, leur Voldemort, c'est QAnon pensait réellement que Donald Trump allait reprendre le pouvoir aujourd'hui. Et donc, il y avait des rumeurs sur leurs réseaux sociaux. Il y en a qui voulaient se rendre jusqu'à Washington, peut-être attaquer le Capitole. En tout cas, il y a des rumeurs suffisamment fortes pour que au Capitole on ait pris des mesures de sécurité renforcées et pour que au Capitole les élus aient travaillé jusqu'à hier soir tard dans la nuit et suspendu leurs travaux aujourd'hui de crainte de cette attaque. Pourquoi le 4 mars? Parce que autrefois les présidents prêtaient serment le 4 mars. Mmh. Et en fait, Trump, n'est-ce pas, aurait eu dans leur lubie jusqu'au 4 mars pour prêter serment. Et en fait, ça a été changé ça avec le 20e amendement de la Constitution en 1932, si j'ai bonne mémoire. Mais ces hurluberlus pensent que, en fait, depuis la fondation du district de Washington en 1871, il n'y a aucune décision du président des États-Unis qui est légitime. Donc, la date du 20 janvier pour prêter serment n'est pas légitime. C'est la vieille date qui demeure. Oh, c'est la date. Ils sont complètement crackpots, complètement siphonnés. Tu te dis, mais voyons donc.
Mais là, je voyais qu'au Capitole, on a augmenté la sécurité.
Oui, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe et donc ils vont tous se dire ah ben c'était un complot dans notre complot on nous a dit ça pour c'est pas vrai on n'a jamais pensé ça. Je sais pas ce qu'ils vont dire, tu sais, mais ils ont toujours une raison.
Dans un complot.
Oui, un complot dans un complot. Un complot contre les complotistes pour faire mal paraître. Mais tu sais, c'est des gens qui s'imaginent n'importe quoi. Ils vont toujours trouver une raison.
Et
toujours.
Ils s'entretiennent là, dans leurs réseaux sociaux. Ils s'entretiennent dans leur psychose.
Totalement. Et on sait pas comment arrêter ça. Tu sais, comment veux-tu parler à quelqu'un qui a des... Je vais le dire, est-ce qu'il y a encore des problèmes de santé mentale? Des gens qui sont rentrés là. Comment veux-tu les convaincre avec des arguments clairs, logiques? Tu sais, t'as encore des gens qui pensent que la Terre est plate.
Ouais, bon. Oui. On se laisse là-dessus, Loïc, puis en souhaitant que demain, ça aille mieux. Merci, Loïc.
Salut, Benoît.
Salut. Merci à Alexandre, à Mathieu, à Sébastien. Merci à vous d'avoir été là. À demain, 10h30.
Cube Radio.